Dans le tempo, c'est l'épisode 57. On reçoit la clique de l'abécédaire du son. C'est parti. Thomas présente. Dans le tempo. Vous êtes dans DLT, le podcast des passionnés de musique d'Az. Le seul podcast du monde, paraît-il.
Le seul.
Il n'y en a pas d'autres.
Bon, il y en a deux, trois autres. Il n'y en a pas qui.
Moi, j'ai un autre nom. Hein,
si c'est vrai.
Voilà, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire.
Il n'existe pas non plus. Il n'y a que DLT.
D'accord, ok.
Non, mais du son, d'accord. Après, il y a.
Non,
mais
il parle, si, il parle de. Ah, ouais, non, voilà, c'est vrai. C'est
ouais,
vrai.
Ouais. Ah oui. Ouais, voilà.
Non, c'est, non, meilleur podcast du monde.
Ok.
Voilà.
Ok.
C'est la modestie incarnée, Lorian.
Écoute, c'est toi qui gère les crédits des vidéos, donc moi, je te suis. Je te suis, il n'y a pas de problème.
Vous l'avez reconnu, je suis avec Daz évidemment, la,
oui,
qui est la MPC sur pattes.
Oui, et qui est le gars qu'on met jamais dans les crédits. C'est WAM.
C'est n'importe quoi cette affaire. Il n'a pas travaillé sur un contenu qu'on est en train de sortir,
ouais.
Et il veut être dans les crédits alors qu'il n'a rien fait dessus.
Dans les albums de rap, il y a plein de remerciements. Les mecs, t'as cru ils étaient venus en studio. Jamais.
On pourrait faire comme ça. Est-ce que tu as kiffé notre concert de vendredi dernier?
Ouais. On était à FGO Barbara, qu'on avait reçu Sayem ici, pour un festival, le festival Ici Demain.
Oui.
Et effectivement, on a vu des jeunes talents.
Oui.
Jeunes, beaucoup.
Oui.
Talents.
Ah, ça va.
Ça va. Il y en avait.
C'était
cool. Ouais, c'était très très cool. Bonne énergie, bonne vibe. Et puis après, bon, bah voilà, on aime ou on n'aime pas le.
Mais on peut encourager les gens à aller au festival Ici
Mais
Demain.
Ouais,
prochaine.
C'est super cool. Après.
J'ai vu passer beaucoup de stories de TH.
Ah, on est d'accord.
On peut en parler de TH.
Ouais.
Mais en vrai, potentiel. Le live, c'est pas encore ça complètement.
Bah, okay. C'était sa première scène.
Normal.
C'était sa première scène.
Ce qui est normal.
Après, voilà, c'est un trappiste du 9-3, donc bon, bah, effectivement.
Vas-y, tu l'imitais beaucoup après le concert.
Ah, bah, le rap inventaire.
Oui.
Bah, oui. Bien sûr.
Podcast, tournage.
Voilà. Exactement. Ouais, non, c'est. La forme peut lasser.
Ouais.
Mais quand c'est bien fait.
Non, en vrai, c'était bien.
Je trouve son écriture à TH, quand même, c'est.
Bah, alors.
Ah, je trouve qu'il y a un truc en fait.
Non, mais il y a un truc. Et surtout, la force du truc, c'est que ça te reste en tête derrière.
Ouais.
Tu vois, on y a repensé, etc.
Ouais, non, parce que le emoji pêche, oh là là, ok.
Ouais.
Mais après, oui, bon.
Sa manière de
numéro 9, numéro 9, c'est moi qui marque les buts. Bon, ouais, ok,
oui,
frérot.
Ça, c'est classique.
C'est-à-dire que, tu vois, les rimes à la 113, où en fait, tu répètes le mot, flemme un peu, tu vois. Mais en même temps, c'est de la trappe. Donc.
Ah, mais je trouve qu'il pose pas comme les trappeurs habituels, quoi.
Ah ouais?
Ouais, parce que moi, en fait, décalé un peu, il a l'air d'être pas dans les temps, mais en même temps ça sonne bien.
Ouais, mais après voilà, il gère bien le côté nonchalant, le côté je m'en bats les couilles. Et ça, quand tu fais de la trappe, c'est très important.
C'est très important. Je trouve que ce podcast démarre sur les chapeaux de roue.
Oui.
Et on a l'impression d'être dans un podcast de l'abécédaire du son. C'est
tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, on va enfin dans cette émission, on va parler de rap.
Oh non, insulte pas
on
nos invités avec
on
qui
on en parle jamais. À part avec Sher, ok.
On a fait Altarba, on a fait Sher.
Altarba, c'était un peu de l'abstract.
Ouais, non, arrête, il prod pour plein de rappeurs et tout.
D'accord.
Tu es une mauvaise langue, Daz.
Oui, c'est vrai.
On parle régulièrement de rap. On reçoit parfois des DM en mode Ouais, c'est cool, mais vous parlez quand même trop de rap.
Excusez-nous de parler de bonne musique, désolé. Pardon, les esthètes de la guitare.
Il faut quand même que je présente nos
Mais bien sûr.
Parce qu'on a entendu Brice Bossavi, donc de la clique de l'abécédaire du son. Merci beaucoup d'être là, Brice.
Merci à vous.
Mais on est aussi avec Zo.
Salut.
Ça va, Zo? Tu étais là en observateur jusque-là?
Deux minutes sur TH, c'est hyper violent.
Alors, très bien.
Juste prévenir, Zo et moi, c'est le yin et le yang, c'est tic et tac.
Mais c'est parfait.
Vrai, toi, TH, t'es pas.
Non, pas vraiment. THX, THC, tout ce que tu veux. TH, tout court. Dolby Surround, tout ce que tu veux, mais pas TH. Non.
Ok. Ouais.
C'est vrai qu'on a avec nous, Daz, deux générations, deux angles, deux points de vue sur le rap présent au sein de l'équipe de l'abécédaire du son. En
c'est
fait,
cool,
d'ailleurs, il y a plein d'angles parce que vous êtes une équipe d'une quinzaine de personnes à peu près, avec chacun vos petites marottes, on en parlait juste avant l'émission. Toi, Zo, tu disais tu arrivais vers 2006, c'est ça?
Ouais, fin 2006, ouais. Ouais, je suis arrivé fin 2006 là-dedans, avec l'envie de parler de rap français assez peu couvert, parce que un peu du gouffre en fait, voilà.
Qu'est-ce que t'appelles le gouffre? C'est l'underground?
Ouais,
c'est...
l'underground, ouais, des trucs pas connus, des trucs engagés politiquement, des trucs qui étaient un peu à rebours à l'époque de toute Mais qui était aussi du rap de gouffre, en fait, mais de toute la génération street CD, street tape, etc., tu vois, mais qui, en fait, avec le recul aujourd'hui, qui est plus du gouffre que Morsay, finalement, tu vois. ton Marcel, ce cher confrère. Mais, voilà, tu vois. Donc, bon, finalement, je suis peut-être pas tant du gouffre que ça, mais.
Tu dois te sentir seul, non?
Un peu, mais, c'est l'évolution de la vie, ça, comme ça, tu vois.
C'est, ouais. C'est beau,
ça reviendra. Ça reviendra.
Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est des modes.
J'ai pas précisé, quand même, pour les gens qui nous rejoignent et qui, éventuellement, ne connaissent pas l'ABCDR du son.
Ah bah là, je suis désolé, mais faites vos devoirs, les gars.
C'est vrai.
À un moment donné, on va pas vous donner tout cuit dans la bouche.
Non, on explique quand même dans ce podcast.
Ok, allez.
La pédagogie.
Oui. Et puis en plus, on se fera mêler sur les commentaires Instagram. Donc let's go. Allez, c'est parti.
Non, mais c'est un site internet, un webzine lancé en 2000, ouais. Dans lequel vous parlez de rap. Ça fait pas bientôt 24 ans.
C'est ça.
Vous avez un rythme de publication d'un à deux articles par semaine à peu près.
Ouais, de gros articles, ouais.
Ouais, plus des trucs un peu plus brefs.
Il y a quelques trucs brefs, ouais, ouais. Alors ça dépend un peu. Comme j'expliquais avant, on n'est pas un média qui fait du flux. Ouais. Donc c'est pas question de relayer des trucs pour les relayer, etc. Mais on a des petits formats pour un peu des coups de cœur sur des morceaux, quelque chose à annoncer, une date, un truc comme ça, quoi.
Est-ce qu'on va pouvoir parler de l'ABCDR et éventuellement tracher les autres publications rap français qui pètent les couilles sur internet, et franchement je trouve ça éclaté.
De manière respectueuse, on peut en discuter, effectivement.
Ok. Okay.
Avec okay. Amour et bienveillance.
Non, mais avec amour et bienveillance, mais franchement faut qu'ils arrêtent.
Il y a un truc qu'on peut dire déjà, c'est que l'ABCDR est reconnu pour globalement la qualité de son traitement du rap français, du rap américain.
Justement.
Souvent une approche exigeante, mais sans être élitiste. Enfin, en tout cas,
on essaye de pas l'être. En tout cas, ouais, merci de le dire.
Mais comme ils font des articles depuis le Catling, il y a plein de petits qui comprennent pas, tu vois. Donc,
Alors évidemment, on vous associe quand même souvent à une façon de voir le rap, voire à certaines scènes, mais en réalité, quand même une volonté de traiter tous les aspects du rap.
Ouais, complètement. Ouais.
Avec certains, on sait par exemple les plus gros vendeurs, c'est pas forcément votre truc. Pour autant, vous cherchez quand même à en parler.
Non, mais on en parle quand même. Ouais.
On a parlé assez tôt, notamment via B2 et Manu de Jul, par exemple.
Ouais.
Dès 2015-2016, Jul, je me souviens, était sur le site chroniqué, quoi.
Même moi, j'en ai parlé.
Oui, il avait perdu un pari, et il avait dû faire une chronique de l'album Émotion. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle est très très bien. Elle est hyper lucide. Et ça, je crois que c'est mon article préféré de Zo sur la BCDR.
Faut lui mettre des contraintes.
Ouais.
Ouais,
il avait vraiment perdu un pari dans une émission, c'est ça?
Ouais.
Une émission de la BCDR. Et en fait, c'est un regard hyper lucide sur Jul. Tu t'étais pas défoulé non plus, quoi.
Non. Non.
Mais allez, en plus, c'est facile de tomber sur Jul en mode Alors, c'est du bruit, blablabla.
Ça a changé. Non, parce qu'à un moment, c'était terrible,
oui, là,
la guerre autour de Jul.
On l'a réhabilité.
C'est devenu une institution, tout le monde considère que c'est respectable.
Oui.
Mais ça a mis du temps.
Ça a mis beaucoup de temps, ouais.
À part Zo, il fait l'amour.
Ouais, non, mais respectable son parcours et sa façon de faire est respectable. Ouais. Après,
moi, musicalement, je trouve que c'est épouvantable, mais attends, musicalement, je trouve que c'est éclaté, mais vraiment, c'est mon avis, hein. Mm-hmm. Par contre, il a absolument toute l'attitude à faire le son, parce que le son qu'il fait, parce qu'en fait, ça plaît à des gens et c'est cool, tu vois. Moi, quand je trouve un truc nul, ça veut pas dire qu'il faut qu'ils arrêtent, à part certaines publications rap, tu vois.
D'accord.
Mais, franchement, Jul, moi, je sais que j'écoute pas, parce que ça, c'est pas possible. Mm. Mais en vrai, la démarche du Boog, la sincérité, l'authenticité et tout, franchement, moi, j'ai rien
à
dire.
En vrai, très organisé, c'était bien.
Bah oui. Bon, enfin, il faut se faire quand même, c'est quand même 15 morceaux de 7-8 minutes, mais surtout, Jul, en fait, ce qui nous a intéressé, je pense, et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il a fait très rare, il a réussi à créer une musique dans les années 2010,
absolument,
quoi. Qu'aujourd'hui on retrouve en Espagne, aux Pays-Bas, en Italie.
C'est comme pour le R&B. La question c'est, est-ce que parce que c'est faisable, il faut le faire. Voilà. Est-ce que tu dois le faire? Moi je pense que non.
Bon, ça tire à balles réelles dans cette émission.
Non mais respect sur Jul, franchement. En plus, sûr. Tu vois le mec qui vient de loin parce que il est Marseillais.
Oui.
Non mais c'est pas facile.
Je dis pas oui pour
Marseille. Mais c'est pas facile, tu vois. Le rap marseillais, vraiment de base, c'est pas facile.
Tu rigoles dès les débuts, ultra important.
Regarde, mais lui il est lyonnais, donc il est encore plus loin que Marseille.
Ah ça c'est vrai.
Non mais voilà, non mais oui, bien sûr, vous allez me parler de Côté Obscur et de IAM et de la Funky Family et de tout ça.
Voilà, top 5 des groupes de rap français.
Non, mais le problème, c'est pas, c'est l'accent. Oh. Oh. Mais bon, oui.
Bah, avançons. Okay. Arrêtons d'écouter Daz.
Big up à la province.
Et je voulais juste quand même préciser que vous, vous étendez l'expérience ABCDR du son à travers, bon, des vidéos, des podcasts, des choses comme ça. Et puis surtout des bouquins aussi. Alors, il y avait eu en 2019, si je me trompe L'Obsession Rap. Ouais. Excellent livre que je recommande. Excellent cadeau, par exemple, pour Noël. Et vous sortez, non pas la suite, mais en tout cas un bouquin que vous avez mis en branle à ma connaissance tout de suite après l'Obsession Rap, en disant allez, on va commencer à bosser sur un autre livre, et plus spécifiquement qui portera sur les années 90, le rap des années 90, le rap français évidemment. Vas-y, présente-le, montre-le, il faut un petit jingle, il faut le faire, etc.
Voilà,
magnifique.
On va rajouter une petite musique de téléachat.
Ouais, on va essayer de faire un truc comme ça. On écoute.
Superbe bouquin.
Chez Marabout d'ailleurs.
Chez Marabout, voilà.
Oui, et très belle édition. Vous revenez sur 200 disques, tout est très éditorialisé, on en parlera un peu tout à l'heure, mais avec des approches, des angles de vue à chaque fois, etc. C'est un beau bouquin que j'ai seulement eu le temps de feuilleter pour le moment, mais je vois
déjà... J'avais pas vu l'adresse du sticker, Ticarette.
Ouais.
Ah, oui. Ah là là.
Magasin emblématique.
Magasin emblématique, magasin de la Rodka, Ticarotte comme on les appelait à l'époque, bien sûr.
Ce que je vous propose, c'est un grand plaisir de vous recevoir, parce que Daz comme moi, on apprécie beaucoup votre travail.
Merci.
Et au-delà du fait, on va évidemment parler de votre bouquin, mais on se disait que vous avez un regard affûté, évidemment, sur la musique en manière générale, de manière générale, sur le rap, évidemment, mais on voulait aussi parler un peu de la façon dont fonctionne un média comme le vôtre, parce que c'est des trucs qu'on fait souvent dans cette émission, on aime bien un peu les coulisses, les aspects financiers, humains, derrière une aventure comme celle-là. Je sais que vous fonctionnez essentiellement que, d'ailleurs, avec du bénévolat.
Ouais, je te confirme.
C'est une sacrée aventure. 24 ans quasiment de bénévolat à tenir, c'est admirable. J'imagine que c'est
je crois que
quasi tous les jours ou
Fait moi j'étais même à un moment donné j'ai cru que le site avait fermé, où il y a eu des
il y a toujours eu des coups de mou
quand t'es bénévole
Et puis même quand t'as une exposition comme les émissions Dailymotion avec Mehdi et que Maisie. ça s'arrête forcément les gens te voient beaucoup moins, même si tu fais encore des trucs. Ça a été d'ailleurs un des grands défis quand tout ça s'est arrêté.
Mais c'était de relancer la machine après avoir été très exposé avec un visage comme Mehdi Maizi. Je me souviens que c'était un peu pénible les deux années après la fin de l'émission, parce que des gens disaient la BCDR ça existe encore. C'est fou, quand tu fais des articles toutes les semaines, ça fait un peu chier quoi.
Après, ce qu'il faut comprendre, mais là c'est pas pour parler que de nous, c'est l'écosystème média rap. On est, nous, dans des années où tu faisais pas vraiment d'argent. Ok, au début des années 2000, tu pouvais, mais l'ABCDR était encore embryonnaire, donc il n'était pas question pour lui d'en faire. Et aujourd'hui, on se dit, le rap, que ce soit la musique ou tous les alentours, donc les médias inclus, il y a moyen de faire de la thune. Mais en vrai, c'est récent, tu vois. C'est pas un truc qui date d'il y a 15 ans. Il y a eu une grande traversée du désert, que ce soit économiquement et aussi d'autres choses, où la BCDR, de toute façon, la question de l'argent ne se posait pas, ou alors c'était de l'argent, j'ai pas envie de dire de la monnaie de singe, parce que de l'argent c'est toujours de l'argent, c'est une mauvaise expression, mais où tu vois, si tu faisais une campagne de pub, ce qu'on faisait pas, on a essayé une fois, et voilà, et ça a été pourri, on le refera plus, on a reçu des pommes gratos en gros, tu vois, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Qu'on les vende sur eBay et qu'on se partage les 80 balles qu'elles allaient te rapporter, tu vois, voilà. Donc il y a un moment, et même avec les bouquins, en fait, on peut pas se payer. Si on voulait se payer, on peut pas. Pourtant, ça rapporte quand même un peu d'argent. Faut pas que les gens s'imaginent que ça rapporte 200 000 euros, mais ça rapporte un peu d'argent. Mais en vrai, avoir un rédacteur, ça n'a aucun sens, tu vois. Tu vas faire quoi? Tu vas donner un bonus de chacun de 500 à 500 euros, 1000 euros à tout casser, et t'as plus d'argent pour faire derrière dans ta caisse en plus, donc du coup tu te fous à poil.
Mais du coup le statut de la BCDR, c'est quoi? C'est une asso?
Alors c'est depuis 6 ans que c'est une asso, 1901, ouais.
Okay.
Il y en avait déjà une de créée précédemment au tout début des émissions, parce qu'ils avaient eu besoin. Au moment des émissions, ils gagnaient un peu d'argent, mais plus dans un truc parce que c'était un partenariat avec Dailymotion, tu vois, et qui concernait que les émissions. Et voilà, ouais, aujourd'hui c'est une asso 1901 avec une caisse commune, et les gens se payent pas en fait.
C'est-à-dire que vous avez des jobs à côté.
Exactement, tout à fait, on a tous un job à côté.
Mais qui reste dans l'écriture, dans le journalisme.
Pas forcément.
Pas forcément.
Et tout ça, Daz, sans pub sur le site, sans abonnement.
Ouais.
On reviendra en détail sur votre modèle, mais c'est vrai que c'est une aventure rare.
Surtout quand tu vois en plus, justement, on a déjà parlé en plus dans cette émission des médias rap.
Bien sûr.
Notamment des acquaintances avec les marques, avec les labels, le fait que du coup ils peuvent pas dire exactement ce qu'ils veulent, donc ils décident de parler que de ce qu'ils aiment bien et de comment en fait
je renvoie d'ailleurs nos auditeurs, il y a l'épisode avec Florian ouais. Le Serre, ouais, l'épisode avec Nemo, et puis plus généralement sur le journalisme avec Simon et Brice de Trax, de Libé, etc.
C'est compliqué justement on voit le modèle parce qu'à un moment donné il y a des gens qui disent il faut de l'oseille, mais en fait t'as vraiment l'impression que certains se disent il faut de l'oseille à tout prix, let's go, et du coup ils se perdent un peu en chemin et c'est con parce que ça entache aussi la crédibilité de l'ensemble des médias rap,
mais même de ta marque. La BCDR c'est une marque en vrai, tu vois, et tu peux pas la saloper, surtout quand t'es à cet âge-là, tu vois.
Exactement. Oui. Ouais.
Tu peux pas faire ça.
Il y a jamais eu, alors peut-être que c'est prévu hein, qu'on en parle comme ça, mais il y a jamais eu au sein de l'équipe des gens qui étaient un peu plus en mode hey, les gars, paillettes, oseille, let's go, tu vois.
C'est pas trop l'esprit.
Non, mais tu sais, même quand c'est pas l'esprit, moi je connais plein de publications, tu vois, dans le jeu vidéo, dans la presse en général, où il y avait un côté camaraderie, etc. Et puis t'en avais toujours un qui était un peu plus en mode business furet. Ouais, mais venez, on fait ça avec tel éditeur, allez, ça va marcher.
C'est comme dans les groupes de musique, souvent t'as un mec un peu plus.
Un peu plus business, ouais. Et qui peut potentiellement bousiller effectivement soit ouvrir une porte et permettre de franchir un palier, tu vois, ou au contraire de flinguer, en fait, l'essence même du groupe, tu vois.
Bah, j'ai l'impression que quand on rejoint la BCDR, en fait, on sait déjà. C'est aussi l'avantage d'avoir un site un peu ancien qui a déjà un peu donné sa vision des choses. On sait déjà que ça va être difficile, quoi, de faire du business ou d'aller chercher des marques.
Mais il n'y a aucun groupe média qui vous a approché en se disant tiens, ça serait chouette d'avoir la BCDR dans notre
roster. Non, il y a eu Dailymotion à l'époque, mais tu vois, c'était un partenariat.
C'est une plateforme de diffusion.
Ouais, voilà. Et puis c'était.
Dailymotion, ils avaient de l'argent gratuit à un moment donné.
Ouais, mais c'était très centré, tu vois. Voilà, ils avaient un projet, ils l'ont fait avec nous, notamment avec Mehdi qui a beaucoup porté ça, avec Nico Bibol qui est le fondateur du site, même s'il s'est retiré depuis. Voilà, des gens comme ça. Mais non. Et puis il y a eu Marabout qui nous a approchés. Mais Marabout, en fait, pour eux, on est un prestataire en quelque sorte. On leur file un livrable et ils l'éditent et ils font leur boulot d'éditeur derrière. Et voilà, ça s'arrête là.
Mais ce que je voulais dire par rapport à la question du bénévolat, c'est que parce que moi, sur mon job à temps plein, je suis journaliste. La BCDR, ça fait 10 ans que moi j'y suis. J'ai pas pris un euro de ces 10 années d'articles. En fait, pour moi, c'est vraiment journalistiquement un espace de liberté totale. C'est-à-dire que si je veux aller faire une interview, chroniquer quelqu'un ou faire un sujet. Quand je suis journaliste, moi, des fois, il y a un peu cette petite frustration où tu dois négocier avec un rédacteur en chef pour le convaincre que c'est cool et qu'il faut en parler. Avec la BCDR, vu que c'est pas payé, en général, si on a envie d'aller faire quelque chose, tout le monde te dit vas-y, fais-toi plaisir et dans la longueur que tu veux. Parce qu'on est aussi connu pour faire des interviews très très longues. Parce que des fois, voilà, je trouve ça bien de pouvoir se dire j'ai envie de raconter la vie entière de ce graphiste. Par exemple, je pense à Régular, le graphiste des pochettes de Nekfeu, Alpha One, etc. Ben, on avait envie de faire une interview où il raconte tout, même si c'est pas une star. Et aujourd'hui, c'est une interview qui revient. Enfin, même lui, il renvoie vers cette interview quand on lui demande c'est quoi ton parcours. Et c'est là où on dit qu'on a réussi un truc. Et pour moi, c'est un espace de liberté qui fait que j'y suis depuis 10 ans, en fait. Parce que je fais ce que je veux dans la longueur que je veux, quoi.
On reviendra sur vos fonctionnements, promis. Mais ce que je vous propose, c'est de commencer avec une première partie, à la fois pour parler de rap et aussi de son traitement chez vous, le traitement médiatique de manière générale. On s'arrêtera aussi sur le bouquin avec ses années 90, notamment ce rapport à ce qui peut tendre vers de la nostalgie à un moment, et ça peut questionner aussi. Mais la première question que j'aimerais vous poser, c'est quand vous vous lancez en 2000, alors vous n'êtes pas encore dans l'équipe à ce moment-là, hein, mais j'ai pu lire qu'il y avait aussi l'idée qu'il y avait des lacunes dans le traitement médiatique du rap, peu de gens qui le faisaient sérieusement, un manque du côté archivé, le rap, qu'il y avait vraiment des lacunes autour du rap de manière générale. Est-ce que c'est un constat déjà que vous avez qui était encore valable quand vous êtes arrivé dans les équipes, et est-ce que vous pensez que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des lacunes, hormis vous évidemment qui essayez de faire le taf, mais...
Alors déjà, faut pas idéaliser le moment où le site a été lancé, par rapport au site lui-même. Le site lui-même a des lacunes. C'est
c'était pas très beau.
Ouais, mais dans l'internet de l'époque, il était relativement normal. Mais comment dire, c'est un truc où tous les gens qui étaient là au début, eux-mêmes étaient en apprentissage d'écriture, de parler de la musique, etc. À la base, l'ABCDR, c'est du fanzina sur internet, en fait, tout simplement. Tu vois, c'est du fanzina. Donc, faut pas non plus se méprendre là-dessus. Ensuite, il y avait des postures, tu vois, qui correspondent très bien à la fin des années 90 et au début des années 2000. Le fait de défendre un rap politiquement engagé, de dire à Skyrock d'aller se faire enculer, que la culture était en train de se faire marcher dessus, etc., etc., la marchandisation, tout le bazar, tout ce discours qui est beaucoup repris derrière dans le bouquin, puisque c'était un mot très à la mode à l'époque, sur les WAC MC, enfin tu vois, plein de choses comme ça. Donc la ligne éditoriale de la BCDR, j'ai envie de te dire qu'au début, elle était relativement radicale, tu vois. Et ça avait aussi tendance à aller chercher dans le rap expérimental, le rap spé. Et si tu regardes les autres sites nés à la même époque, les Hip-Hop-Core, les 90 BPM, etc., étaient encore plus que nous dans le rap. Alors ils étaient peut-être moins dans le truc, la rumeur, etc. et tout, mais ils étaient vachement dans le truc, c'était TTC, Triptyque, ce qu'on a appelé le rap alternatif, avec tout ce que cette étiquette comporte de maladresse, mais aussi d'intérêt. Et ils étaient beaucoup là-dedans. Hip-Hop-Core était beaucoup dans les trucs américains de Anticone. Enfin, c'est surtout 90 BPM, Anticone, mais les Stone Throw, tous ces labels-là, etc. Plague Language, enfin, je pourrais en citer plein, quoi. Donc, au début, faut pas trop idéaliser cette époque, ni même ce qu'était un site comme l'ABCDR, etc. 90 BPM, par contre, c'était hyper léché graphiquement, pour l'époque. Bon, il y avait aussi des gens.
Il y avait des bandeaux en flash.
Ouais, ouais, mais il y avait aussi, il y avait aussi des gens calés qui travaillaient dessus. Je sais que Dabaz a un peu bossé dessus, etc. Tu vois, voilà. Donc, sur le graphisme et tout. Bref, donc c'est toute une époque, quoi. Est-ce qu'il y avait des lacunes? Franchement, avec toute l'effervescence qu'il y a eu, et notamment, on revient un peu dessus dans ce bouquin, des années 97, 98 particulièrement, je pense que les gens pensaient même pas encore à archiver le rap, tu vois, à raconter son histoire. T'étais dans la dynamique du truc, et dans cette perte de vitesse qui a commencé à avoir au début des années 2000, qu'on qualifie aujourd'hui de décennie noire, mais quand tu parles aux gens qui avaient 12, 15 ans dans les années 2000, ils considèrent pas du tout ça comme une décennie noire, en fait. Donc c'est très maladroit de dire ça. Mais, tu vois, il y avait tout ce truc-là de changement de scène, et puis de changement de monde, en fait. Mais là, je veux pas partir dans des trucs géopolitiques et tout, mais le monde a changé aussi, tu vois, à ce moment-là. Donc c'était tout un truc de changement. Et je pense que cette envie de documenter le rap, elle est venue au fur et à mesure. Et nous, on a commencé à le faire après 2005, progressivement, notamment sous l'impulsion d'un mec qui s'appelle JB, qui est très important dans l'histoire de la BCDR, JB Vieille, ouais, qu'on salue ce soir d'ailleurs. Et le truc qui a vraiment été la claque, c'est un jour, sur l'idée d'un de nos forumers, parce qu'on a encore un forum, hein, on a toujours eu un forum, on a fait les 100 classiques du rap français, sur des votes de nos lecteurs. Parce que souvent les gens croient que c'est nos 100 classiques à nous de la rédaction. C'est pas vrai, c'est des lecteurs qui ont voté, hein. C'est pas du tout le classement de la rédaction, hein. Et on les a commentés en faisant en plus commenter les rappeurs. Et on a fait ça de façon un peu léchée graphiquement. Et effectivement, quand ce truc-là est sorti, qu'on a vu comment c'était reçu, que ça devenait un article référence très rapidement et tout, et que même comment les rappeurs s'étaient prêtés au jeu, on a commencé à se dire, ah mais en fait tous ces gens veulent raconter leur histoire. Et le public est demandeur de ça. Et nous-mêmes, ça nous fait kiffer de le faire.
C'est 2009, c'est ça?
C'est 2009, ouais. Alors ça veut pas dire qu'on n'a pas continué à faire autre chose, parler aussi de trucs d'actualité, des nouveautés, etc. Et c'est là vraiment le déclic où quelque chose a changé, et où la BCDR est devenue vraiment un site de patrimonialisation. Et même en regardant nos archives, en fait, on s'est dit, putain, mais ces trucs un peu maladroits qu'on faisait en 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, mais en fait, ils disent quelque chose, tu vois.
Et ça passait forcément par une presse spécialisée, comme vous l'êtes, ou est-ce qu'il y avait quand même des choses qui se faisaient dans les médias plus généralistes?
Dans les années 2000 en France, dans le rap,
je pose la question.
Il y avait Stéphanie Binet.
Ouais, un petit peu.
À Libération.
Dans les années 90, ouais.
Ouais, il y avait l'affiche, il y avait les radicales et compagnie.
Ouais, mais là, on n'est pas dans le généraliste, mais ouais, il y a quand même.
Et Olivier Cachin.
Non, mais même, t'as cette rencontre incroyable entre le rap et la télévision, par exemple, où souvent ça se passe mal, ou voire c'est très gênant.
C'est souvent très, très gênant.
Voilà, t'as les trucs.
Fab et Nagui.
Ouais, Fab et Nagui, c'est plutôt ça. C'est très gênant quand les autres font les kékés et ensuite ça se passe mal. IAM sur les ballons sauteurs, voilà, quand même. Enfin, tu vois, plein de trucs comme ça. NTM avec Eric Raoult, qui a un moment assez beau de télé, en vrai, tu vois. Et eux, ils sont forts là-dessus, tu vois, sur comment ils se laissent pas faire. Et
tous les trucs qu'on évoque, hein, allez checker sur YouTube, il y a plein d'extraits de tout ça.
Mais en fait, quand tu fouilles un peu l'INA, tout ça et tout, tu vois quand même qu'il y a eu des trucs médiatiquement, qu'il y a eu un rapport de je t'aime moi non plus entre le rap et les médias mainstream, tu vois. Dans les années 2000, effectivement, je suis plutôt d'accord avec Daz, il y a eu surtout du mépris.
Beaucoup, beaucoup. Voilà. Ou alors on leur posait toujours les mêmes questions.
Sur des trucs judiciaires.
C'était soit des trucs judiciaires, soit mais qu'est-ce que vous faites pour votre communauté, ouais. Comment est-ce que vous réinvestissez l'argent que vous gagnez? Parce que maintenant vous avez de l'argent, ouais. Est-ce que vous le réinvestissez dans le quartier? C'est comme si les artistes n'avaient pas le droit de juste d'être des artistes en fait et de kiffer.
Surtout années 90-2000, il y avait ce réflexe de quand il y avait des émeutes en banlieue, on allait parler à des on interviewait des rappeurs.
Il y a cette fameuse table ronde entre Ekko et Diziz.
Incroyable, incroyable.
Tu sais que c'est moi qui l'ai mise sur YouTube.
C'est vrai.
Wow. This is face à Joey Star.
Il y a Joey. Et Cynic notamment a très bien parlé de ça à la BCDR en 2010-2011 en disant pourquoi lui il refusait systématiquement dès qu'il y avait un angle sur un événement sociétal. Il disait non, je n'irai jamais, tu vois.
Voilà. Oui, parce que t'es pris comme le haut-parleur d'une génération, alors que hey, les gars, calmez-vous.
Ouais, et puis même une caution aussi pour le système, tu vois. Ouais, regardez, on a invité un mec, ça va quand même, tu vois. On a été sympa, tu vois.
Et cette démarche que vous évoquez de patrimonialisation, d'essayer de se dire voilà, cette musique a une histoire importante en France, il faut essayer de raconter cette histoire, de l'écrire, de l'ancrer quelque part pour qu'on puisse y avoir accès, pour la transmettre, etc. Tout en continuant à travailler plus autour de l'actualité, des sorties aussi d'aujourd'hui, etc. Ce que vous faites, mais vous avez l'impression que depuis votre lancement, où clairement il y avait peu de choses qui se faisaient, aujourd'hui ça a évolué dans le paysage à la fois médiatique, politique peut-être, des institutions, etc. Sur ce rapport à l'histoire de cette musique et à son importance éventuelle.
Il y a un truc génial que m'a dit Némir en 2011 ou 2012, où il m'a dit « mais tu te rends pas compte, mais en fait le rap, c'est bon, il va être partout ». Je lui fais « mais ouais, développe ». Il me dit « mais en fait, regarde, toi, moi, nous là autour de la table et tout, on va devenir des profs, on va devenir des infirmiers, des médecins, peut-être même pour certains des hommes politiques, etc. Et on va arriver avec cette culture en nous, et pas des gens qui ont découvert cette culture dans le sens qui se la sont pris de pleine gueule à 30 ou 40 ans, tu vois, et qui ont rien compris. Mmh. Non, des gens qui ont grandi avec cette culture. Mmh. Et il avait raison en vrai, tu vois. Donc déjà, ce postulat-là fait qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont aujourd'hui dans la vie active et qui sont influents sur la société, quand j'ai influence sur la société, c'est pas un truc de marionnettiste, c'est juste que t'as un rôle dans la société, quel que soit ton métier.
Et
la parole, tu vois. C'est devenu quelque chose, moi je vois mes collègues de mon âge, ils comprennent le rap, tu vois. Je parle à mes collègues de 55 ans, ils comprennent rien au rap, tu vois. Mes collègues de 40 ans, 30 ans, ils comprennent le rap, tu vois. Alors que quand j'ai commencé en entreprise assez jeune, franchement, quand t'étais le seul jeune hôte du service, personne comprenait rien, tu vois. Tu parles au gars de 40 ans, il te sortait toujours les mêmes conneries, tu vois. Sauf toujours, t'as toujours un passionné quand même que tu trouves miraculeusement, mais voilà quoi. Et tout ça pour dire qu'en fait, déjà ça influe sur l'écosystème médiatique, la réception aussi, parce que des médias sans récepteurs, donc sans lecteurs, sans spectateurs, sans auditeurs, etc., ça n'existe pas. Donc il y a aussi une meilleure compréhension de ça, je pense. Après, est-ce que tout est beau, tout est rose? Non, mais sur la question de la patrimonialisation, je pense que des sites pas très connus, mais font un super boulot. Je pense au Le Bon Son, le rap en France. Alors même si là, c'est plus compliqué pour eux, mais ils ont essayé de le faire et de façon assez sérieuse aussi. Sous Culture, le fameux site qui produit un seul interview par an. Voilà, en général, c'est un interview mythique, etc. Donc ça existe, et même d'une certaine manière... regarde ce que fait Mehdi aujourd'hui, ce que fait Raphaël dans certaines émissions, etc.
Raphaël Dacruz,
ouais, qui est parmi nous au sein de la Reda, quoi, que vous avez reçu. Ils participent aussi à ça, même s'ils font plutôt des émissions d'actualité, de débrief, d'albums et tout. Tu sens qu'ils remettent toujours des comparaisons sur des trucs qui sont sortis 10 ans, 15 ans plus tôt, qui renvoient à des trucs historiques, etc., des connexions entre artistes. Et donc, du coup, tout ça, ça prouve qu'en fait, il y a quand même une conscience, une vivacité. Mais d'une culture, quoi.
Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de médias. On parle beaucoup de rap, mais quand même, il manque, selon moi, quand même de format, de longueur, quoi. D'interviews longues, de récits un peu longs.
C'est ce que j'allais dire, ouais. Mais est-ce qu'il y a un public pour ça aussi maintenant?
Parce que je pense qu'il y en a un.
Un truc viable économiquement.
Viable économiquement.
Ouais, parce que je sais que tu vois une certaine partie de, enfin des même des auditeurs de ce podcast qui écoutent des podcasts qui font plus de 2 heures, tu vois. Effectivement, sont friandes de longue forme, mais on tend toujours plus vers un raccourcissement de à peu près tout,
sûr.
Tu vois.
Mais par exemple, je vois Bouscapé qui a d'un côté des formats divertissement. Mm-hmm. Bah, je trouve ça bien qu'ils aient lancé un format qui s'appelle La Vraie Interview, qui est des interviews de 45-50 minutes avec Kerry James, avec Cor, où ils remontent
Emmanuel tout. Macron.
Bon,
voilà, dans cette émission,
on critique pas Bouscapé, ils ont partagé un de nos épisodes il y a pas longtemps.
Voilà.
C'est vrai.
Non, non,
c'est
mais
vrai.
Là, je les tacle là-dessus, non, mais ils sont vraiment bien réinventés en vrai.
Mais ça, tu sais quoi?
Ouais, bah, du coup, ils sont un peu abécédérisés.
Non, quand même pas. Okay. Mais la vraie interview, c'est vrai que c'est un peu abécédaire, je trouve.
Ah,
c'est
tu vois,
une
ouais.
interview où ils partent du point de départ de la vie de la personne, comme on aime bien faire, et ils remontent toute sa vie chronologiquement pendant 50 minutes. Mm-hmm. Et donc ça, c'est possible. Tu peux faire du divertissement et avoir un format un peu plus long et patrimonial. Je pense que l'équilibre, il est possible. Et je trouve que ça manque encore un peu aujourd'hui. Les médias rap aujourd'hui, pour moi, c'est encore un peu le rayon... bonbons snack à la caisse avec des
mal,
petits
ça,
trucs
là,
mais ça manque un peu de
kebab consistant
voilà, c'est ça ouais. et je pense que ça serait bien qu'on remette un format long au moins un dans tous les médias qu'on voit mais il y a aussi des efforts qui sont faits. Je vois Raplume qui commence à faire là, qui a sorti un documentaire sur l'IA et la musique de 50 minutes
et ça justement serait... Raplume sur
qui est un média aujourd'hui mais qui naît à la base c'est un compte Twitter quoi.
Et qui aujourd'hui donc, sur YouTube donc, essaie de faire des choses plus longues
parce que moi je vois que ce qui passe sur Twitter ouais.
et sur YouTube
c'est une mauvaise loupe déjà et puis faut pas idéaliser de nouveau dans les années 90 des formats longs t'en avais pas tant que ça en vrai tu vois franchement même des émissions mythiques comme le Cut Killer Show What's the Flav et tout c'était des interviews de 15 minutes bon après ça kickait de ouf on était tous là enregistrés avec nos cassettes c'était mortel
voilà.
Mais voilà tu vois dans les magazines franchement, à un moment, faut pas se voiler la face. Le truc de la relation avec les maisons de disques, des interviews négociées, oui. etc., sur 4 pages ou sur 2 pages et
ouais.
compagnie,
oui, c'était la même.
Ça existait déjà.
Oui,
tu
c'était
vois,
la
voilà.
presse papier. Hein.
Et t'avais jamais, enfin jamais, t'en as eu, mais c'était rare d'avoir des interviews.
C'est pour ça que la presse web
de 20 pages, tu vois.
C'est vraiment ouais. ancré. C'était en réponse à ces pratiques-là où en fait on disait à l'époque déjà, les médias papier rap n'osent plus critiquer les albums.
Mais c'est ça qui est très marrant, c'est que aujourd'hui, quand on parle de la presse rap, notamment des années 90, on a tendance à citer par exemple RER ou Groove comme des magazines genre emblématiques, alors que moi j'y étais, hein. C'était éclaté, on n'achetait pas ça, tu vois. Non mais pour de vrai, c'est-à-dire que pour moi, Groove, RER, c'était tous les magazines qui s'étaient montés justement pour surfer sur le la vague de la Golden Era, un petit peu du rap français, tu vois. Et en vrai, c'était pas ouf.
Bah avec le recul, en fait, c'est quand même cool qu'ils existaient.
Alors ça ouais. un écosystème en fait.
Et on était aussi des connards de puristes à cette époque, tu vois.
Mais
tous,
tout à fait.
On était tous des connards de puristes.
C'est
donc
vrai.
Voilà, c'était pas forcément cool pour eux non plus, mais il y a quand même des
non, gens... franchement, il y avait des gens qui étaient flingués.
Ouais, mais il y a aussi des gens qui ont fait des belles choses dans ces magazines, tu vois.
Oui, mais il peut y avoir un ou deux idéalistes, mais si t'es le seul, si t'es
non, mais
le seul,
je tire aussi à balles réelles, mais je ne te laisserai pas tirer sur tout le monde.
Non, franchement, Groove et RER, c'était pas ouf.
Ce qu'on peut dire, en tout cas, sur les médias actuels, on évoquait Bouscapé, Raplume, etc., c'est que souvent, moi, c'est pas des médias qui sont faits pour moi, clairement, à la base, mais tu sens comme une volonté avec une forme de maturité de la part de ces médias, au bout d'un moment, de se dire, on va... Alors c'est des gouttes encore pour le moment dans l'océan souvent de production de flux de ces sites, mais qui mine de rien ont conscience de plus en plus qu'il y a aussi
une responsabilité.
C'est ça. Et puis peut-être même un autre public à aller choper, des gens peut-être un peu plus exigeants entre guillemets, ou qui veut pas juste du snack comme ça. Effectivement, genre machin vient de faire tant de streams sur son dernier album, tu vois.
Oui, parce que Bouscapé a aussi un podcast avec Raphaël Dacruz.
Absolument.
Encore,
BPM sur la production en plus. Tu vois, c'est pas le truc le plus sexy.
Producteur, je suis pas sûr qu'ils vont convaincre beaucoup de marques de mettre de la thune sur ça. Ouais. Et là, c'est vraiment pour la transmission et mettre en avant des gens, donc c'est intéressant aussi.
Et Brice, pendant qu'on te tient là, c'est parce que toi, tu bosses aussi pour de la presse généraliste, t'écris par exemple dans Libé régulièrement. Est-ce que tu observes, alors t'es pas un historique de cette presse, mais est-ce que tu observes quand même un changement petit à petit dans le traitement? Parce que là, on parlait vraiment des médias SP dans le traitement.
Ben, je suis un peu l'exemple de ce que disait Zo sur le fait que des nouvelles générations arrivent à des comment dire des postes ou des endroits où où on peut parler de rap dans des lieux comme comme Libération notamment, où je chronique ben des trucs de rap, que ça soit la new wave, que ça soit des gens à l'époque Giorgio ou des gens comme ça. Ben en fait moi j'ai 29 ans. Donc j'ai grandi en écoutant du rap, et ben vers 25-26 ans, je suis arrivé à un moment où j'ai pu avoir accès à la rubrique des chroniques de Libé, et là ben j'ai commencé à proposer des trucs de rap que j'écoutais, et j'ai eu la chance de tomber sur des rédacteurs chefs Patrice Bardot et Alexis Bernier notamment de Tsugi Magazine, qui font les pages week-end, qui étaient ouverts à ça et qui avaient aussi envie, même si c'est pas ce qu'ils écoutent le plus, qui disaient ben ouais vas-y parle-en. Et du coup effectivement ben j'essaie de à mon humble niveau de parler de rap dans les pages de Libération, notamment là en ce moment de la nouvelle génération.
TH
bien sûr. Bah j'ai quand même
la merde.
j'ai parlé de Kershak et Zola dans Libération par exemple.
Et Zola, on parle pas de Émile hein, je précise.
Bien sûr. Non, c'est pas le même. Pas le même du tout. Mais par contre oui, on va dire que dans les plus gros médias, il y a une ouverture de plus en plus, qu'on sent de plus en plus sur le rap, les rappeurs, etc. Après, je trouve que c'est pas forcément fait avec toujours les meilleures intentions.
Non, c'est parce que c'est ce qui marche en ce moment, voilà. donc il faut pas rater le train.
Exactement. Et ils commencent à dire que ça devient tellement gros que si on n'en parle pas, on est vraiment des vieux croutons.
Ouais, parce qu'on l'a dit, hein, le rap, c'est la pop. Des années 2020, clairement. Et effectivement, il y a beaucoup de publications qui veulent en être.
Et je sais que par exemple chez les attachés de presse, la technique pour vendre un rappeur à un média généraliste, c'est de dire directement c'est un phénomène, il remplit des salles, il fait complet, et vous ne le connaissez pas, et ça froisse un peu l'ego des journalistes musicaux qui n'ont jamais entendu,
ouais, et qui font des angles morts de ouf,
voilà, c'est ça, ouais. Qui disent ah là, faut peut-être qu'on en parle. et c'est vrai qu'encore aujourd'hui l'aspect phénomène, c'est ce qui fait qu'on voit, mais c'est déjà un premier pas, qu'on voit des rappeurs dans des médias généralistes. Donc je sens encore quand je discute avec mes rédacteurs en chef dans des médias un peu généralistes que il faut qu'il y ait quand même quelque chose où il se passe un petit phénomène sociétal.
Il faut qu'il y ait une ébullition quelque part
là,
pour.
Là où parfois, avec tout le respect que j'ai pour les petits groupes de rock indé canadiens, des fois ils vont avoir une double page pour un nouvel album parce que ça parle plus aux gens qui sont dans ces rédactions, etc. Il faut encore un peu se battre quand même pour.
C'est-à-dire que pour le rap, c'est pas forcément la musique qui passe en premier pour qu'on en parle.
Ouais. Ouais. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est encore vrai, ouais. Effectivement.
Est-ce que, Zo, peut-être tu peux nous en parler, je sais pas si on peut parler de, si on peut dire que le rap est arrivé à maturité aujourd'hui. En tout cas, je mets en dehors l'aspect vraiment artistique, esthétique, etc. Je parle vraiment d'un point de vue
commercial,
économie,
institutionnalisation
aussi d'une certaine manière, reconnaissance de plus en plus importante de la part de médias généralistes, etc. Est-ce que dans le traitement médiatique aussi, à ton avis, on est arrivé à une forme de maturité, y compris au sein de l'ABCDR du son? Est-ce qu'on apprend au fil des années? Est-ce qu'on parle mieux de rap qu'on ne le faisait auparavant?
Ouais, c'est dur comme question. Franchement, nous, oui, mais parce que ça fait 20 ans, donc j'espère qu'on est meilleur qu'il y a 23 ans, sinon ça voudrait dire qu'on est vraiment particulièrement mauvais.
Il y a quelques chroniques pépites dans les vieilles archives.
Tout est accessible encore.
Tout est accessible.
Après, je te laisse terminer, mais il y a eu des plantades. Parce que tu sais, il y a ces trucs mythiques, tu sais, surtout dans les chroniques de disques. Tu sais, un mec, genre, je sais plus qui avait rien capté à Daft Punk, par exemple, effectivement. Et vous êtes planté sur un truc comme ça.
Oui, c'est déjà arrivé, bien sûr. Après, là, j'ai pas d'exemple en tête. Non, j'en ai pas en tête. Mais ouais, c'est déjà arrivé.
Sol Invictus de Akhenaton s'était fait massacrer, je crois. Le deuxième album de.
Ouais, mais alors ça, à la limite.
C'était mérité.
Non, mais je veux dire, ça me choque pas dans le sens où c'est arrivé aussi plein de fois que des disques soient pas compris à leur sortie. Et tu reviens, tu vois, dans l'histoire de la musique, c'est pas propre au rap et à la BCDR. Mais. Ouais, moi cette histoire de maturité, j'y crois pas trop. J'ai plus l'impression
plus une fuite en avant, je trouve.
Ouais, je sais pas si c'est le terme que j'utiliserais. En fait, d'un côté, j'ai un peu l'impression que attention, accrochez-vous pour les expressions, c'est la fête foraine, c'est la foire à saucisses, tu vois. Où un peu tu peux tout faire passer, tout vendre, tout tester. En fait, le rap, c'est vachement dilué d'un côté et segmenté de l'autre. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas dans son exercice de presse et de traitement. Donc si on parle de la presse généraliste, oui, comme on l'a expliqué là pendant 10-15 minutes, il y a quand même un truc qui s'est mis en branle avec des bons et des mauvais côtés, tu vois. Mais si on parle du rap lui-même, il s'est quand même vachement dilué, notamment dans la pop, dans des sonorités de tout type. Il y a beaucoup de choses qu'on entend aujourd'hui qui sont qualifiées de rap, mais qui en fait n'en sont techniquement plus vraiment, tu vois. Après, est-ce qu'une musique doit rester figée, etc. C'est tout un débat qu'on pourrait avoir et qui est d'ailleurs hyper intéressant, mais là c'est pour le dire. Mais il y a quand même des fondamentaux qui ont disparu. Même le hip-hop n'est plus jamais associé au rap, alors que tu l'as encore associé à la danse, au DJing dans une moindre mesure, au graffiti. Bon, même si sur le graffiti, sur l'institutionnalisation, il y a plein de choses à dire.
Ah, il y aurait des choses à dire. Hein.
Rappeur comme Sessen en parle très bien. Mais voilà, donc... je suis assez mitigé là-dessus, et de l'autre côté il s'est vachement segmenté, ça veut dire qu'aujourd'hui t'as du rap pour tout le monde, mais du coup, et moi qui écoute beaucoup de rap qu'on va qualifier d'indépendant, que j'ai qualifié du gouffre un peu au début de l'émission, mais on va plus dire indépendant, de parisien, trentenaire, quadragénaire, voire quinquagénaire, tu vois, il y a quand même des trucs où chacun reste un peu dans sa chapelle, d'un entre-soi, etc. Et moi je pense que c'est pas des super bons signes en vrai, tu vois, c'est pas des super bons signaux. Alors pour revenir sur le média, qu'on soit dans une ère de réseaux sociaux, de format court, de flux permanent et d'entertainment rapide, etc. Tu vois, je pense que même les, si c'est dans une moindre mesure, même les rockers se sont mis à Instagram, à TikTok, etc. à faire des vidéos, alors avec une autre attitude, un autre style et peut-être un public un peu moins jeune, donc peut-être aussi des fois un peu moins facile où tu touches moins la corde naïve des gens, tu vois. Mais en vérité, moi, le terme maturité, j'en suis pas sûr. Institutionnalisation, peut-être un peu, mais pas dans le bon sens du terme.
Mais non, mais en plus, enfin, maturité, voilà. c'est un sujet qu'on avait déjà évoqué avec Cher, et que moi j'évoque aussi, c'est que moi j'ai 45 ans. Il y a pas de rappeur de 45 ans à part peut-être Booba, tu vois. Mais en vrai, les rappeurs que moi j'ai connus quand j'ai acheté leur CD quand j'avais 14-15 piges, ils sont tous en train de crever la dalle, en vrai.
Ah bah bien sûr.
Alors qu'ils étaient signés en maison de disques, machin, etc. Donc en fait, tu te dis, en fait, on prend même pas soin, tu vois, de la culture. On prend même pas soin de ces gens-là qui ont pavé la voie, tu vois. Donc pour moi, non. En fait, le truc, il est pas mature, puisque en fait, ceux qui vont grailler le plus aujourd'hui, c'est des petits, c'est des jeunes, tu vois. C'est-à-dire que en fait, je disais, c'était une musique de transgression. C'est pour ça que quand tu disais qu'avec Némir, il parlait du fait qu'à un moment donné, les gens qui sont nés, qui ont grandi avec le rap, arriveraient à des postes à responsabilité. En fait, le problème, c'est que quand les gens arrivent à des postes à responsabilité, généralement, le rap, c'était la musique de la jeunesse et on passe sur autre chose, tu vois. Et c'est rare, en fait, de
tu
trouver des...
Tu penses même pour ces générations qui l'ont vraiment dans l'ADN, entre guillemets.
Bah, moi, je suis dedans, en fait. Et je me rends compte que quand moi, je discute avec des gens qui ont mon âge, donc qui sont de la fin des années 70... En vrai, on a tous grandi avec ça. On s'est tous pris le rap des 90s dans la gueule, machin, etc. On a tous, tu vois, le Wu-Tang et toutes ces conneries, on a tout pris. Bah, franchement, il y a des gars que je connais, ils vont me dire, ouais, si, je trouve que Soprano, c'est pas mal ce qu'il fait, tu vois. Je suis là, ah ouais, frérot, quand même, tu vois, c'est... Comment ça se fait? Tu vois, on allait dans des concerts bourbiers, là, avec, aller voir la mafia qu'un fric qui dépouillait les mecs dans la salle, tu vois. Et je fais, waouh, comment tu peux avoir vécu ces trucs-là et aujourd'hui ne plus écouter cette musique, tu vois. Et généralement, il y a.
Mais parce que c'est de l'embourgeoisement, en fait.
Mais c'est ça.
Tu vois.
Oui, c'est qu'il y a un biais, c'est que.
Des ministres au concert de NTM à Bercy, quoi.
Ouais, voilà, ouais. Ça, c'est. Après, je me dis pourquoi pas si les ministres veulent s'enjailler, mais, en fait, c'est vrai qu'il y a un truc qui fait que. La musique actuelle, le rap actuel qui pète de partout, il parle même pas à ma génération à moi. C'est-à-dire que moi, je fais un effort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es dans ta posture de connard à te dire « Ouais, le rap, moi je le connais vraiment, c'était mieux avant. Là, maintenant, ce qu'ils font, c'est même plus du peur, ils ont pas de flow, ils sont éclatés et tout, machin. » Et moi, je suis obligé de faire un effort pour aller vers la musique et tu vois, te dire après « Hey, t'es H, j'aime bien.
» Ouais, mais ça, c'est, après, tu peux aussi avoir des choses aujourd'hui.
Il y a rien qui est fait pour les mecs de 40 ans. Il y a rien. Les mecs et les meufs, attention.
Si j'allais parler de Alpha One, Benjamin Epps, ou si
oui,
alors Maero, à jeune
mais crack, je suis d'accord. Alpha One.
Dean Burbigo.
Alpha One, le dernier rappeur qui rappe. C'est lui qui le dit. Bon, ok. Moi, franchement, j'aime beaucoup Danny Dan, j'aime beaucoup Hild X-Men, donc j'aime beaucoup Alpha One. Parce que c'est copie carbone, tu vois. Mais en vrai, Alpha One, de tout l'entourage, de tous les mecs qui ont pété, c'est justement celui qu'on considère comme le rappeur de l'ombre, limite. Tu vois. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup pour Dean, que j'aime beaucoup aussi. Nekfeu, bah, on n'en parle même pas, il a passé le statut de pop star, tu vois. Mais en vrai, Alpha...
Oui, mais aujourd'hui, il fait des disques de platine.
Ben bah, ouais, mais alors, attention, parce qu'il faudrait qu'on parle.
Aussi, ouais.
Ouais,
faudrait en termes de popularité, il y a...
Oui, mais en fait, disques de platine sur Spotify, c'est pas comme quand tu faisais disques de platine, tu vois, à la Fnac. En vrai, c'est... Déjà parce qu'il y a des disques d'or et des disques de platine Snap qui sont des gros, des gros carotteurs, en fait, parce qu'on sait très bien comment ça marche, les streams, tu vois. Et ils s'en cachent même pas, c'est ça le pire. Toute la métrique est de dire que, par exemple, si t'as fait platine, ça veut dire que t'es reconnu. En fait, c'est faux. C'est ça qui est incroyable. Et c'est pour ça que je rejoins ton avis sur la fragmentation du rap. C'est qu'il y a des gars qui peuvent faire platine et que tu connais même pas.
Bien sûr.
C'est vrai.
Mais ça, d'ailleurs, c'est pas propre au rap, hein.
Ah, moi, je suis désolé, quand on parle de Taylor Swift, c'est pas du tout ma cam, je vois qui c'est, tu vois.
Non, mais attends, Taylor Swift, il faut la comparer à Jay-Z ou Kanye West. Oui, c'est pas ça. Segmenté, tu vois. Non, je pense que la musique.
Je rappelle que Jay-Z, je l'ai pas mis dans mon top 50 des rappeurs US.
Ça, c'est ton problème. C'est pas seulement un problème. C'est honteux même.
Oui. Non classé, c'était une volonté éditoriale.
Globalement, le domaine culturel et peut-être même la société de manière générale est plus segmenté. D'ailleurs, Internet a eu cet effet aussi, cet effet de bulle.
Niches pour tout le monde.
Là où on pensait qu'il connecterait tout le monde et réunirait tout, c'est quasiment l'inverse qui s'est passé. Avec un intérêt aussi, hein, mais en segmentant énormément les choses. Et je crois que les musiques de manière générale sont très segmentées. On parle sans cesse du rap qui s'adresserait, il y aurait du rap pour tout le monde aujourd'hui, différents publics, etc. Je peux te dire que dans le rock, dans le métal, etc., les embranchements sont multiples, on le sait très bien. Et ils s'adressent aussi pas aux mêmes personnes, ils véhiculent pas la même culture, la même image, etc. On le sait aussi. Donc je pense pas que ce soit propre au rap. Par contre, que le rap ce soit relativement récent, que lui aussi il se prenne cette vague et cette segmentation, notamment à travers le canal web, ça c'est vrai, mais je pense pas que ça lui soit propre, tu vois.
Mais j'allais le dire, il y a quelque chose qui est spécifique à la BCDR dont je suis assez content et qui, je pense, ne devrait pas être spécifique, c'est que on essaye de parler de tout le rap. C'est-à-dire que on peut parler à la fois de Danny Dan et de Winter Zuko, qui sont deux choses très différentes et qui pourraient peut-être perdre un lecteur. Mais là, par exemple, d'ailleurs, on se marrait en interne de ça. On a enchaîné la semaine dernière, par exemple, sur la home du site, un article où il y avait Fab, et le lendemain, il y avait un groupe de K-pop dans la home, quoi.
La K-pop sur la BCDR du son.
Ouais.
Zo, qu'est-ce qui se passe?
En vrai, c'est bien. En vrai, c'est bien, là. Ce petit jingle m'inquiète, m'angoisse. J'ai l'impression d'avoir dit une connerie.
C'est vrai que c'est au moment où tu l'as dit. Pardon.
Mais non, en vrai, c'est bien. Par contre, je pense que, effectivement, le rap a peut-être, et en même temps, c'est pas tout à fait vrai, mais a peut-être perdu un peu cette idée de legacy, d'héritage, pardon. Tu vois, pas des tirages, mais c'est un beau lapsus, en vrai. Parce que tu vois qu'il y a beaucoup de jeunes, ils veulent faire. Table rase, tu vois, dans leur façon de faire de la musique, ils veulent grailler le rap, ils veulent le réinventer, ils veulent lui donner des codes et tout, que tu vois, tu comprends pas forcément. Et en même temps, paradoxalement, avec des bouquins comme ça, comme le précédent et tout, tu te rends compte quand même qu'il y a aussi des jeunes qui ont un intérêt pour... merci de votre complicité.
pour le montrer, il est là, voilà. Achetez-le.
Tu te rends compte quand même qu'il y a des jeunes qui ont un intérêt pour l'histoire de cette musique et tout, mais effectivement, c'est pas ce qu'on voit et ce qui est relayé, tu
sur
vois.
Sur Twitter, ouais.
Peut-être aussi parce que le boom-bap poisseux se prête pas tout simplement, tu vois, à des formats courts, à des blagues sur TikTok, etc. et tout. Ça empêche pas Hugo TSR de faire des dizaines de millions de vues, tu vois. Par exemple, alors c'est un cas très particulier dans l'histoire
très,
du
très
truc,
particulier.
Mais là, récemment, t'as un mec qui s'appelle Okis qui a sorti un album avec Money Days.
Très bon album.
Franchement, t'y trouves ton compte, tu vois. Alors, je dis pas que c'est le classique ultime des 20 dernières années, mais c'est un très très bon album, produit par un excellent producteur, et c'est vachement bien. Est-ce que finalement c'est grave que ce rap-là ne soit plus visible?
Non, c'est pas ce que je dis.
Attends, juste pour finir, moi, ce qui me gêne un peu là-dedans, c'est qu'effectivement, quand il y a des trucs qui pètent, on leur donne un peu trop d'importance, on a du mal à dire, attendez, cette culture, normalement, c'est un héritage, différents lignages, etc., et que ça devienne ce que c'est aujourd'hui. Bon, bah, à la limite, c'est la vie, tu vois.
C'est le problème quand tu deviens de la nouvelle pop, quoi.
Non, mais moi, c'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, ce que je dis, c'est que le rap reste en tout cas, le rap qui fonctionne, reste dans une posture, de transgression. Donc, les mecs qui rappent les trois quarts, c'est des grossistes, tu vois. Voilà,
mais est-ce que c'est de la transgression?
Oui, c'est ça le pire. C'est qu'en fait, c'est tellement mainstream de dire ça que, en fait, plus personne est choqué quand un mec, il t'explique comment il coupe de la cocaïne, tu vois. Alors que ça reste quand même un truc, tu fais waouh. Mais, ce que je veux dire, c'est que je suis pas en train de dire, il devrait y avoir du boom bap pour les mecs comme moi qui ont grandi avec ça, qu'on continue à faire aujourd'hui. Intimement, j'aimerais bien. Mais c'est pas grave. Non, ce que je veux dire, c'est que, même dans le style actuel, si le style actuel c'est la jersey ou c'est la trappe, eh ben tu sais quoi, il devrait y avoir des trapos de 40 piges qui te parlent pas forcément de couper de la drogue et de maquer des putes, tu vois, juste qui peuvent te parler de la vie en utilisant le moyen d'expression qui est disponible au moment où ils ont envie de le faire, qui se trouve être ce style de rap, eh ben let's go, on le fait, tu vois. Et en fait,
certains l'ont fait, je pense à Flint sur son dernier
album. Alors ouais, il y a Flint. Mais Flint, il a évolué, tu vois, il est passé par tous les trucs. Mais à la limite, pourquoi pas, ouais. Mais je veux dire, Flint, pareil, c'est comme Rossé, c'est comme tous ces mecs-là, c'est des gars, les petits les connaissent pas aujourd'hui,
c'est vrai.
Non, et puis t'as le piège du jeunisme pour l'artiste.
Ouais, aussi. C'est ça le problème en fait.
Qui est pas forcément voulu, hein, mais vouloir imiter des formats aujourd'hui que les jeunes maîtrisent comme des dingues et donc ont marqué de leur empreinte,
c'est
de leur
personnalité. C'est comme quand t'apprends une langue, quoi.
Bah ouais, c'est plus dur pour les autres, quoi, tu vois. Pour les anciens d'arriver, enfin je sais pas quoi, tu vois, tu vois pas Kool Shen sortir les trucs que sort Caris, tu vois, par exemple, tu vois.
Alors non,
trappe de Kool Shen,
mais ça pourrait être drôle.
Ouais, mais voilà, tu vois.
C'est parce que en fait, on peut, ouais, il peut se révéler un truc, tu vois, il peut se passer un truc où tu fais ah putain. Mais en fait, c'était pour lui, ça, tu vois. Genre, un rappeur, je sais pas, Solar qui reviendrait, tu vois, sur des trucs.
Jersey.
Ouais, par exemple, tu vois.
Il y a un exemple, quand même, je trouve, d'évolution esthétique. Et, alors, il est pas aussi vieux qu'Akhenaton, mais un Medine, par exemple.
C'est vrai.
Pour moi, c'est l'exemple
qui nous a fait très bon podcast sur la VCDR du son.
Et qui, lui, va faire du rap de daron, entre guillemets, qui pourrait te parler dans les thématiques abordées, et qui, pour autant, est souvent assez actuel dans ses sonorités, dans l'esthétique qu'il propose.
Alors après,
pas à la pointe, c'est pas le dit, tu vois, il est pas en mode hyper pop ou je ne sais quoi, mais
il y a l'autotune.
Ouais, tu vois, la trappe, il s'en est complètement emparé.
C'est vrai. Mais c'est marrant parce qu'on en parlait justement en interview avec lui. Quand il voit la trappe arriver, il s'est mis en mode je redeviens un étudiant du rap, et il nous disait qu'il était allé à Sevran voir un concert de Caris pour comprendre l'énergie. Enfin, il avait remis ses 20 ans de carrière derrière lui, il s'est dit je repars de zéro. Et ça, je comprends que c'est dur aussi quand t'es rappeur et que t'as fait pendant.
C'est ça qui est ouf, c'est que en tant que rappeur, t'es obligé de faire ça.
Ouais, tout le
temps.
Tu vois,
t'es obligé de faire ça.
Ou 3 ans maintenant.
Alors qu'on poserait jamais la question à un Mick Jagger de est-ce que tu veux pas apprendre un peu le sonorité du rock.
Mais tu prends un exemple très précis de ces rares groupes. On en parle parfois dans DLT. Moi, j'évoque souvent ACDC où ils peuvent faire à chaque fois le même album. Mais c'est rare. Et d'ailleurs, il y a peu de musiciens en fait qui sont dans la démarche de reproduire à chaque fois la même recette. En général, les musiciens ils sont excités par le fait de faire des choses.
Ça évolue, mais à la marge. C'est-à-dire qu'ils restent quand même dans leur. Tu sais, t'as rarement des artistes.
Une carrière avec un son un peu.
Non, t'as rarement des artistes qui vraiment d'un album à l'autre prennent des virages. Tu vois, même en rap.
Après, c'est plus ou moins radical, mais franchement, moi, je crois vraiment que 90% des artistes se disent j'ai fait ça dans tel album, j'ai pas envie de refaire exactement la même chose. Et j'ai envie d'incorporer, y compris des trucs que j'ai entendus à la radio récemment ou dans mon environnement. C'est un truc qu'on entend souvent chez les musiciens. Je sais pas si c'est spécifiquement dans le rap si on le retrouve beaucoup, mais globalement, les musiciens sont comme ça.
Après, tu vois d'autres genres musicaux là, t'en parlais. Regarde un truc qui a été une déferlante dans les années 90 aussi, le grunge. La plupart des groupes, en fait, tu vois, la plupart n'ont pas passé les années 2000.
Oui, parce qu'ils se sont suicidés, mais...
Non, pas que. Tu vois, il y avait des groupes mortels et qui, en fait, n'ont pas réussi à se réinventer. Ça a donné un autre rock dans les années 2000 qui a été très différent. Ça a peut-être enfanté aussi d'autres
ça
trucs, etc.
Ça a donné
etc.
Avril Lavigne.
Non, ça, c'est un mauvais exemple. Mais... Et voilà, est-ce que c'est grave au final? Non, tu vois, parce que t'es Pearl Jam en 90, ils ont jamais réussi à l'être en 2000, ils ont d'ailleurs essayé d'arrêter, enfin, ils ont arrêté de le faire. Des groupes comme L7, des groupes comme ça, etc. Bon,
non, mais je pense à Eddie Vedder, par exemple, qui a su se réinventer, qui a continué.
Mais quand il a sorti No Code, même en 96 ou 97 avec Pearl Jam, ça a été super mal reçu, tu vois. Parce que déjà, il était en train d'essayer de se réinventer. Donc c'est toujours compliqué, mais ce qui est pour revenir à nous, ce qu'on fait, et ce qui est passionnant, c'est que là, tu vois, on prend des exemples, on part même dans le grunge et tout, on parle depuis 20 minutes de tout ça, c'est d'être dans une position d'observateur de tout ça. Et quand t'es dans le présent, tu te rends compte que t'as toujours un peu du mal à... Enfin, soit t'as une opinion très arrêtée, qui en général est un peu con, un peu provoque, où tu rigoles bien à la crier tout haut et fort, et en mettant un peu de provocation, soit tu sens que tu réfléchis tout le temps à voix haute et tout, comme on est un peu en train de faire là. Et en fait, la BCDR et d'autres médias d'ailleurs, t'as ce truc du temps long, et surtout qu'aujourd'hui, le temps long, en fait, d'une part, c'est un luxe. Et paradoxalement, aujourd'hui, attendre 2 mois pour parler d'un disque, c'est vraiment du temps long, tu vois.
Oui, j'allais dire ça, c'est vrai que souvent, des fois, on sort une chronique 6 mois après la sortie. Mmh. Et en fait, c'est vrai que c'est très rare et ça nous laisse le temps de digérer
le truc, ouais.
De laisser le temps d'écouter à différentes périodes aussi de ta vie personnelle, parce que ça joue dans ton écoute.
Et au-delà d'ailleurs du rapport individuel qu'on va avoir avec cette musique, c'est aussi quel impact elle va avoir sur son environnement, cette musique.
Bien
et
sûr,
que mine de
sûr,
rien,
ouais.
On va intégrer à notre critique aussi, qui va
bien
nous permettre de comprendre des choses.
Et même, t'es pas dans l'euphorie de ce truc de la sortie où tout le monde célèbre maintenant la moindre sortie, etc. Le truc qui est redescendu. Même ça, en fait, en 3 semaines, déjà, tu vois si le truc vit encore ou pas, en fait.
C'est
tu
vrai,
vois.
C'est vrai.
Et est-ce qu'il vit auprès du public, mais aussi dans ta tête, tu vois. Est-ce que toi, tu t'en rappelles de Zizis? T'en as déjà bouffé 50 depuis. Si tu t'en rappelles plus, c'est déjà qu'il y a sûrement un petit problème, tu vois. Mmh. Voilà.
Donc, c'est vrai qu'on n'a pas trop cette peur d'arriver trop tard dans notre calendrier de publication.
Ce qui est un luxe. Parce que c'est le modèle médiatique, normalement, c'est le plus vite.
Ouais, ouais.
Ne serait-ce que pour le SEO, être bien référencé sur Google, il faut vite qu'on traite le truc pour être parmi les premiers.
Non, c'est un contre-pied, ouais.
Et justement, je crois que les gens aiment bien justement voir 6 mois après quelqu'un reprendre le temps de s'arrêter sur un album qu'ils ont aimé. Parce qu'ils se disent, bah oui, le gars l'a écouté pendant 6 mois au moins, quoi. Et ça donne une autre valeur, je pense. Mais oui, c'est un luxe, hein. Ça, faut pas avoir envie de gagner de l'argent pour faire ça, quoi. C'est sûr. C'est sûr.
Tout à l'heure, Zo, tu as parlé d'embourgeoisement.
Ouais.
Question peut-être bête, peut-être provoque, je sais pas. Enfin, tu me réponds comme tu veux, mais est-ce qu'il y a parfois le risque, lorsqu'on veut proposer un traitement un peu plus exigeant, peut-être parfois un peu plus intellectuel aussi, de la musique, de justement participer d'une certaine manière, même si on essaye d'élever le niveau avant tout, à cette forme d'embourgeoisement?
Factuellement, oui, mais en vérité, je pense que pas le faire, ce serait une erreur. Parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les gens dans les quartiers, ils sont pas foutus de lire des articles longs, tu vois. Ça voudrait dire que si on fait pas des formats longs, etc. et tout, donc si on se contente de faire des formats courts, en gros, on va soudainement rendre hommage à cette musique, alors qu'on le ferait pas en faisant des formats longs. Donc moi, je pense qu'en fait, ce serait du mépris de pas le faire. Ce serait du mépris pour cette musique, et ce serait du mépris pour des dizaines et des centaines de lecteurs et lectrices. Donc effectivement, que des gens aient pas le temps, ou que des gens même écoutent du rap juste par divertissement, et j'ai aucun problème avec ça, tu vois. Moi, je demande pas à tout le monde d'adhérer à la... C'est pas une secte, tu vois. L'ABCDR en interne peut être un peu une secte, mais le rap, c'est pas une secte, tu vois, ça va. Et y a un moment, en fait, moi, j'ai pas envie de me dire « Ah ouais, tout le monde est dans le speed, tout le monde est un peu demeuré, tout le monde a pas le temps », tu vois. Mais c'est quoi cette posture, en fait, vis-à-vis des gens en général, tu vois. Déjà, même le mot « gens », il veut rien dire, tu vois. Non, tu vois, moi je fais un article long, et notamment là je le fais moins, mais dans les années 2010 je me suis beaucoup baladé en région, notamment dans ce que j'appelle du rap de préfecture, tu vois. là, tu vois, déjà t'es à deux doigts du mépris en disant ça, en fait, tu vois.
Ah, moi, mais... pour moi t'étais dedans totalement. Mais...
ok, merci. Je suis ton exemple depuis le début.
Mais oui, la province, on vous kiffe.
Là j'ai dit les régions, moi, tu vois.
C'est vrai, les territoires. Alors, les territoires.
Non, ça c'est horrible, les territoires. Et j'ai beaucoup parlé avec ces gens, les activistes locaux sur place, etc. Ces petits groupes qui font ça, tu vois, dans des bars devant 40, 50 personnes et tout. Et en fait, il y a une appétence de ouf, tu vois, pour cette culture, pour ce qui est écrit dessus, etc. Et ça, c'est des gens dont on parle jamais. Donc après, je vais pas tomber dans tout le discours, ouais, la France inattendue,
les oubliés,
les jaunes, les oubliés, ouais, etc. Tu vois, les zones périurbaines, les cités, quand même, tu vois, etc. Mais en vérité, tu te rends compte que partout, il y a toujours un mec, une meuf qui veut lire ça, tu vois. Et ben, moi, on le fait pour ces gens-là. Après, ils peuvent aussi kiffer écouter un podcast d'une heure comme on le fait, plutôt que de rester 3 heures à lire. Je m'en fous, ça me pose pas de problème. Je demande pas aux gens d'être des lecteurs, tu vois, etc. Mais ce truc de dire, ouais, est-ce qu'en faisant des formats longs, on est un peu élitiste? Mais en fait, élitiste quoi? Moi, c'est aux gens de décider, en fait. Ils ont leur libre arbitre en allant voir ces contenus. Tu vois, je vais pas commencer à dire, moi je trouve que je serais méprisant si je disais, ah mais les gens ça les intéresse pas, je serais méprisant vis-à-vis de cette musique, je serais méprisant vis-à-vis des gens qui ont envie de lire ça, et vis-à-vis même des gens qui aujourd'hui ont pas envie de le lire, mais qui dans 10 ans ça se trouve vont se poser, et vont se dire, ah tiens je vais consulter ce site en ligne, il y a des bêtes d'interviews qui me rappellent ma jeunesse, c'est finalement qu'est-ce qu'il est devenu, j'en sais rien, Caris, tu vois, qui avait fait une belle interview avec Brice, tu vois, ou des gens comme ça, qu'est-ce qu'ils sont devenus, tu vois, et, ou ouais la pochette de Nekfeu, le mec qui retrouve le CD en rangeant son truc, elle est stylée, tiens. ah, le graphiste, c'est ce mec-là, et il a fait tout ça, tu vois. Voilà, non, tu vois, non.
C'est le vrai élitisme, pour moi, en fait, ça serait de ne parler que des je vais dire, des rappeurs qui ont des codes dans leur écriture ou dans leur imagerie, qui vont parler aux classes les plus aisées, supérieures, etc. Et je pense que c'est rendre hommage à tout le rap de parler de manière longue et intello d'un morceau de Jul ou de Kaaris, de mec de la trappe aussi, parce que c'est un autre art peut-être plus spontané, peut-être moins intello dans la manière, mais dans ce que ça raconte et dans l'énergie qu'il y a, il y a des choses aussi à analyser. C'est pour ça qu'on a un format qu'il faut qu'on relance, qui sont les sélections semestrielles, où c'est nos 25 morceaux du semestre. En fait, on fait 25 petites analyses de morceaux, et à chaque fois on parle aussi d'un, on peut parler autant de rap à texte que faire une analyse d'un morceau de trap bête et méchant, mais il nous a fait quelque chose. Et en fait, pour moi, le danger, je réfléchis toujours à ça, c'est, il faut pas qu'on s'enferme à ne parler que du rap qui a l'air pseudo-intelligent, mais vraiment de prendre le temps d'analyser aussi des choses qui sont plus spontanées, quoi. Enfin, c'est comme en foot, on adore aussi les joueurs imprévisibles et un peu fous. Enfin, Ten Ben Arfa, c'est génial aussi, quoi. Et oui, les milieux de terrain hyper intelligents qui voient tout 4 secondes à l'avance, c'est génial, et on fume des clopes en parlant d'eux. Mais les mecs qui ont des coups de génie d'un coup aussi, bah, c'est hyper intéressant à analyser, quoi.
Bien sûr. Il y a un autre écueil possible que celui de l'embourgeoisement qui peut parfois pointer le bout de son nez, mais vous avez répondu assez clairement là-dessus. C'est le rapport au passé, à la nostalgie, à
c'était mieux avant.
En fait, il peut planer après une ombre un peu sur tout ce que l'on observe aujourd'hui en se disant, oui, mais attends, tu te rappelles de ça? Si on le met face à ça quand même, tu vois. On peut parler déjà de votre bouquin, peut-être, parce bien que sûr. Vous parlez des années 90. Donc là, on se replonge dans le passé.
J'adore.
Et avant même, tu vois, typiquement, est-ce que ça a été une discussion au sein de la rédaction? Parce que non, là, vous mettez l'âge d'or.
L'âge d'or. La réponse est sur le livre. Tu vois, Taz, il a dit l'âge d'or, nous on a dit
faux.
Un âge d'or.
C'était une discussion juste
avant. Bien sûr, ouais. Évidemment, bien sûr.
Pour redécouvrir un âge d'or.
Un âge d'or.
Le fait qu'il y ait eu une discussion. Ça veut dire que c'était l'âge d'or. Non, mais c'est vrai qu'on a tendance, effectivement, l'âge d'or, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que dans le rap français notamment, l'âge d'or, c'est le moment où les majors ont compris qu'il y avait des trucs à faire et se sont mis à signer tout le monde. Donc chez nous, ça correspond un peu à 95, 96, 97, c'était la folie furieuse, 97, 98, puis après... on rend les contrats, tout le monde nique sa mère et voilà. Mais c'est pour ça qu'on parle d'âge d'or, c'est parce que c'était l'époque où les rappeurs que tu voyais, quand je parle des concerts Bourbier où on y était, où les genre je vais voir Arsenic, les mecs ils lâchent les pites dans la foule, tu sais, mais qui se faisaient que se verdier. Non mais je te jure, c'était n'importe quoi, c'était le zoo, tu vois. Et ben ces mecs là que tu voyais comme ça, de manière vraiment street, et d'un seul coup, ces gars-là, ils vont signer dans des beaux bureaux avec des attachés de presse et des machins et des trucs. Et t'es là, tu fais ah ouais.
Il y a quand même, il me semble aussi, des gens qui parlent d'âge d'or d'un point de vue aussi esthétique, tout simplement. Même parfois, alors là, on commence vraiment à virer dans le truc un peu vieux con de dire bah ouais, mais au moins ils avaient des trucs à raconter, quoi.
Mais c'est faux.
Mais en fait, moi,
mais
je
c'est factuellement faux.
Mais ce que je voulais te répondre sur cette histoire de lutter. De lutter contre la nostalgie, c'est que cette année sur l'ABCDR du son, alors il y a eu une chose très visible, c'est on a sorti effectivement un livre où on rend hommage au rap français des années 90, mais après en interne, on a intégré 7 nouvelles personnes. Et dans ces 7 nouvelles personnes, notamment ce qu'on voulait et ce qu'on a plutôt réussi à faire, c'est qu'il y en a au moins 3 ou 4 qui ont 20-21 ans. Et donc je pense que le meilleur moyen de lutter contre la nostalgie musicale, c'est de renouveler en fait dans ta rédaction les effectifs, d'avoir des gens qui arrivent et qui te disent en fait toi tu kiffes Nekfeu, mais H Jeune Crack c'est très bien aussi, et je vais t'écrire un texte, et ça te toi aussi, moi en tant qu'auditeur aussi, même si toute la nouvelle scène elle me plaît de base, j'aime beaucoup lire les textes d'analyse de la génération avant moi là qui arrive et qui nous donne nous aussi des clés de lecture pour pour ne pas devenir des vieux cons. Et je sais que par exemple moi, quand j'arrive à l'ABCDR en 2013, ben je sais que j'ai été pris aussi parce que moi je suivais la scène, l'entourage, Nekfeu, etc. Qu'ils étaient, si j'ai pas de bêtises, pas énormément dans la rédac à écrire sur eux.
Ouais, c'est plutôt vrai, ouais.
Et du coup,
il y avait une raison. Il y avait
Mehdi s'y intéressait.
Mehdi s'y intéressait beaucoup.
S'y intéressait, ouais.
Mais Mehdi et Nico, mais après il y avait pas mal de gens qui ne suivaient pas forcément ça, et je suis arrivé et du coup j'ai commencé à aussi écrire sur ça, et le fait, comment dire, d'intégrer du 109, ça te permet en fait, même toi en lisant les textes des personnes plus jeunes, de te dire, de t'ouvrir aussi l'esprit et de pas tomber dans ce truc de oh bah c'était vachement mieux Fab à l'époque, quoi, même si c'est génial Fab. Mais bah, c'est...
franchement, enfin bon.
Non, mais tu vois, en fait, t'allais défoncer Fab, non?
J'allais non, pas, il
non,
dire...
non, non, j'allais pas défoncer Fab, mais j'allais quand même défoncer un peu Fab. Je pense que tout le monde se branle sur Fab. Moi, le rap comme ça, ça me pète les couilles, tu vois. Parce que franchement, moi, à l'époque, quand j'écoutais les X-Men, quand j'écoutais bah, toute la Click Time Bomb, t'écoutais Lunatic, t'écoutais Arsenic, t'écoutais tous ces gars-là, Fab, franchement, flemme de ouf. Il y avait des morceaux géniaux. Et moi, j'écoute aujourd'hui des morceaux de Fab où je me dis, putain, j'ai été dur quand même. Lui, tu vois, lui, tu vois, Solar, pareil.
Ouais, tu peux pas comparer Fab et Solar, ça n'a rien à voir.
Ouais, mais c'est des mecs, c'est des mecs qui étaient, pour moi, les deux pieds dans leur époque et qui chroniquaient la réalité, tu vois, leur réalité. Sans plastronner. Et en fait, c'est vrai que le
Fab
hip-hop
devient dur, notamment sur le dernier, sur La Rage de Dire. Je dis pas qu'il plastronne, mais c'est quand même assez,
c'est un peu
assez
plus
ferme et radical.
Un peu plus. Bah ouais, mais parce que le mec, il était en train de virer militant, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que il s'inventait pas. En fait, on a toujours eu un problème en France avec l'entertainment. On a toujours eu un problème.
Oui,
c'est-à-dire que quand t'avais un rappeur dans les années 90 qui disait hey, moi je suis un rappeur chaud, j'ai vu des trucs, le mec il se faisait tester de Châtelet jusqu'à Nation. En fait, il se faisait tester à tous les coins de rue par tous les mecs qui disaient ah ouais, toi t'as dit ça dans ton texte, on va voir si tu le tiens. Alors qu'aux États-Unis, c'était pas le cas. Aux États-Unis, on faisait complètement la séparation, et je crois que Doc Gineco en parlait dans un de ses morceaux, on faisait complètement la séparation entre Ice Cube qui te parle de bang bang shoot shoot, tu vois, et puis qui après en fait rentre à Beverly Hills, tu vois, et personne va tester Ice Cube, alors que franchement il y aurait matière par rapport à ce qu'il dit, tu vois. Donc il y avait des rappeurs comme ça qui avaient les pieds ancrés dans le réel, et qui sont rentrés en frontal, en opposition avec des rappeurs qui étaient là uniquement pour la technique. C'est pour ça que quand on dit oui, dans les années 90, ils avaient des choses à dire, mais absolument pas. T'écoutes l'album des X-Men, ça ne raconte rien.
Pas grand chose, ouais, mais.
Ça raconte rien. Par contre, techniquement, c'est génial. Et moi, et Cassidy, Miskin, Cassidy, c'est dur quand t'es à côté de Hill, mais Hill, Ify, tous ces mecs-là, je kiffe leurs plumes. Mais jamais de ma vie, je me suis dit, dans cette situation, que ferait Hill, tu vois? Jamais. Alors que tu peux te dire, Qu'aurait fait Solar, qu'aurait fait Fab.
Mais pour te répondre quand même, je pense que ce qui est important en tant que média, c'est de toujours un peu ramener la jeunesse dans ton équipe. Parce que moi, je me rends compte depuis qu'on a toutes ces personnes. Bon, il y en a 7, je vais pas toutes les citer, mais je les salue aussi parce que même moi, ça m'ouvre le fait de relire un peu ce qu'ils écrivent sur des rappeurs que peut-être je ne calculerais pas. Et en fait, je me dis, ah ouais, en fait, c'est plus intéressant que ça en a l'air.
Peut-être à une échelle plus individuelle, Zo, est-ce que pour toi, c'est un risque de se retrouver un peu figé dans ses goûts musicaux, dans nos références, ou est-ce que c'est un truc assez naturel au final?
Pour moi, c'est un peu naturel, et en fait, je le ressens pas parce que je n'écoute pas que du rap, même si j'écoute beaucoup de rap, qu'aussi j'aime beaucoup revenir sur des disques que j'ai pu louper ou mal écouter. Donc moi, si tu veux, en fait, là, ce qui sort en 2022, 2023, 2024, je sais que je vais l'écouter en 2026 ou en 2027, tu vois, à quelques exceptions. Et c'est mon schéma d'écoute, en fait, ça me dérange pas. Il y a quelques artistes vraiment que j'aime. Je t'ai cité Okis tout à l'heure, tout le monde m'a dit écoute-le, ça va te plaire, tu vois, etc. Donc là, j'y suis allé, tu vois. Mais là, typiquement, en ce moment, pour parler de rap, je me bute à Mike A9, le rappeur de Los Angeles. Je me suis fait mon bootleg, Freestyle Fellowship, tout ça, moi-même, tu vois, mon bootleg de 45 morceaux. J'écoute ça au moins une fois par semaine, voire deux, et je me suis buté à ça toute l'année, tu vois. Et j'ai redécouvert plein de trucs grâce à ça, en m'interrogeant, un peu comme tu le fais quand tu fais un bouquin comme ça. Ah, mais ce son-là, c'est vrai, il est mortel, mais qui l'a produit, en fait? Donc, du coup, je vais sur Internet, je télécharge, parce que les plateformes de streaming, pour moi, c'est un énorme mensonge, il n'y a pas du tout toute la musique dessus, donc je télécharge Je le dis aujourd'hui. Je continue à télécharger. Et voilà, tu vois, je retélécharge des trucs, donc du coup, je redécouvre des labels, des, tu vois, enfin, plein de gens, quoi, plein de gens. Et à côté, j'écoute aussi du rock, tu vois, des trucs comme ça, du blues. Donc, si tu veux, j'ai même pas ce truc d'usure musicale ou quoi. Après, moi, je suis un peu nostalgique, mais pas dans le sens, pas la nostalgie triste, pas la nostalgie, c'était mieux avant. Juste déjà, c'est ma jeunesse. Donc forcément, tu vois, c'était une période quand même cool. Et ensuite, moi, ça m'arrange d'être nostalgique parce que finalement, ça me permet de raconter l'histoire de ce truc-là. Et j'espère qu'aujourd'hui, les petits jeunes dont parlait Brice, quand ils auront 35-40 ans, ils se diront « Ah, mais c'est vrai, à l'époque, il y avait aussi ces mecs-là, ces meufs-là, on s'y est pas assez intéressés. » Ou ils étaient dans l'ombre, c'était des producteurs, tu vois. Même des fois, au sens producteur exécutif, tu vois, des choses comme ça. Ou des gens qui faisaient des connexions. Ça se trouve même, ils iront interroger des confrères à nous, tu vois. Et raconter un peu toute l'histoire de ce moment-là, tu vois. Moi, pour moi, ce bouquin, c'est le luxe du temps long. Et en fait, on l'a fait. On s'est dit, mais en fait, c'est obligé. Alors, ça dépend pas, ça dépend pas que de nous. Faudra qu'il y ait des opportunités d'édition et tout. Mais c'est, pour moi, dans ma tête, c'est naturel que l'ABCDR sorte dans 3, 4, 5 ans la version 2000-2010. Et dans 7, 8, 9 ans, la version 2010-2020, tu vois. Pour moi, c'est naturel, en fait. Ça va de soi.
Par contre, tu
fais comme ça, le bouquin.
Dans l'article d'annonce du livre, tu disais un truc intéressant. C'est que t'avais dû lutter un peu contre ta nostalgie quand tu devais revenir sur des albums.
Ouais, parce que tu vois aussi ta jeunesse, tu vois. Donc, des fois aussi.
Pour ton objectivité, quoi.
Bah ouais, tu te rappelles un peu de comment t'as pris un truc et tu l'associes à.
J'ouvre la page, le bouquin
est pour toi, celle-là.
Sur Guet-apens. Putain, j'écoute encore cet album.
Ouais, tu vois, je suis pas surpris. Mais ouais, non, évidemment, bah parce que c'est ta jeunesse et puis aussi parce que des fois, t'as un peu peur de tomber dans le truc où tu parles qu'aux gens qui ont ton âge. Tu vois, truc con, et ça c'est marrant, souvent on me fait ouais, les années 90, tu vois, donc il y a que le truc nostalgie, c'est c'était mieux avant, tu vois. Et tu sais, tu rappelles aux gens et tu fais ouais, ok, c'est toute l'illusion du capitalisme victorieux, de la société de consommation au top, toute la société post-mur de Berlin, pré-11 septembre, tu vois. Ouais. Si tu prends ces deux jalons-là, évidemment, ça a l'air trop cool, tu vois. En vrai, tu rappelles aux gens, tu fais mec, c'est le Rwanda, la Yougoslavie, le sida, les affaires politiques, des assassinats d'une députée en France notamment, enfin tu remets tout, des Arabes jetés dans la Seine par des mecs du Front National, enfin tout ce qui s'est passé, tu vois, c'était une décennie quand même, et même que t'en parlais, la façon dont Paris c'était, comment tu te faisais tester dans la rue à Paname dans les années 90,
c'était un merdier.
C'est pas ce que c'est aujourd'hui en 2020, tu vois, les années 90 c'était pas tant la teuf que ça en vrai, tu vois.
Alors, là où on est aujourd'hui,
c'était
au cœur du 19e arrondissement, je vous garantis que dans les années 90, quand moi je devais aller à Riquet...
Tu vois, moi ça fait 20 ans que j'habite très près de la place Stalingrad, les bas, etc. Et ouais. Ça fait un moment que je connais le coin. Même le début des années 2000, place Stalingrad, ça rigolait pas, tu vois, voilà. Bon bref, et donc il y a tout ce truc-là aussi donc, dans lequel tu dois lutter, pour revenir sur ce que tu disais, parce que t'as un peu peur des fois de te dire merde, je fais un bouquin pour les 35-40 ans. Et moi, pour moi, si ce bouquin c'est pour les 35-45 ans, alors évidemment, je sais que c'est le public majoritaire du livre, tu vois. Mais si un gamin de 18 ans qui vient et qui va prendre une chronique au hasard, il comprend rien, j'ai foiré.
C'est chiant, ouais.
J'ai raté. Tu vois. Il faut aussi que le gamin. Donc, j'ai été obligé de me détacher du truc.
De didactique.
Voilà. Il était pas là avec moi même, tu vois. Je peux pas lui demander d'avoir des références qu'il a pas, de lui faire une référence à je ne sais quelle sombre ordure des années 90 et lui dire, ah, il va comprendre, ça y est, tu vois. Non, tu vois. Non, il comprendra pas.
Je précise quand même que, donc, le livre, vous précisez qu'il y a 210 disques traités. Alors, il y a une part à la fois
c'est
un peu...
un excellent vendeur.
Ah bah oui, franchement. Il y a à la fois une part
chronologique. On dirait Pépita dans Pyramide. Voilà, ref à l'ancienne. On est là.
Ouais, il y a une part chronologique. Alors d'abord, on est sur la période 90-94, après 95-96, puis après chaque année de fin de la décennie, là, vous vous arrêtez vraiment spécifiquement sur ces années-là. Mais il y a plein de focus ultra intéressants. Par exemple, sur les samples de la chanson française, il y a toute une page où on dit voilà, des exemples de morceaux où il y a de la chanson française qui est samplée. Il y a une double page sur les dialogues de films qu'on retrouve dans des morceaux. Enfin,
toute la discographie de Keops.
C'est assez bien éditorialisé. Et c'est fait que c'est, en plus, c'est pas chiant à lire parce qu'il n'y a pas que le côté, allez, voilà, on t'envoie
vois les références, c'est chronologique, t'avances chaque page, c'est une nouvelle année, etc. Et puis, j'aime bien aussi comment vous terminez, parce que vous faites le lien, évidemment, avec la décennie d'après. 2000, ouais. C'est-à-dire, quels personnages, en fait, qui seront importants dans les années 2000, on commence déjà à percevoir dans les années 90, etc. Enfin bon, bref, on sent que ça a été bossé, votre truc.
Merci.
Sympa, le gars.
Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça pose quand même toujours cette question de... Enfin, je sais pas, par exemple, est-ce que vous vous êtes posé la question de quelle décennie? Est-ce que vous n'êtes pas dit... Parce que, alors, les années 80, c'est peut-être pas assez riche. Parce qu'il y a déjà du rap en France.
Mais... C'était trop embryonnaire, ouais. Je pense.
En fait, là, je pense que t'espères une réponse avec énormément de réflexion et tout. En fait, la vérité, c'est que c'est né d'articles sur le site. Mmh. On avait déjà fait des rétros de 97, 98, 99.
Je m'en rappelle, je les ai lus.
Et on avait envie, au départ, de les sortir en petits bouquins et de faire genre une collection, année, tu vois, ouais. Chaque année, tu vois. Mmh. Et en fait, au fur et à mesure, en discutant, en voyant, et puis en ayant le plan avec cet éditeur, on s'est dit, ben non, en fait, on reste sur le format beau livre. Et donc, c'est devenu ce format-là d'une décennie complète. En fait, ça va pas plus loin, si tu veux. Après, aussi, d'une part, c'est la décennie sur laquelle on a le plus de recul. Mmh. Aussi, il y a quand même des gens dans la BCDR, moi j'en fais partie, on est des enfants de cette époque, comme je l'expliquais il y a 5 minutes, tu vois. Donc, et même la BCDR est le fruit des années 90. C'est un webzine qui est né au tout début des années 2000. Et ça encore, c'est la version officielle. En fait, il est né toute fin 99, tu vois. Mmh. Et voilà, tu vois. Donc, c'est aussi, pour la BCDR, c'est le point de départ logique, en fait, tout simplement. Voilà.
C'est d'ailleurs presque un peu frustrant, parfois, ce que tu dis que vous avez imaginé, pourquoi pas sortir des bouquins sur des années précises, etc. C'est, moi, je pense plus justement à ces pages comme ça, avec un angle spécifique, reprend les dialogues de films. Mmh. J'ai envie de voir limite un bouquin que là-dessus, parce qu'il y a de la matière, j'en suis persuadé. Je sais pas si ça a déjà été fait, d'ailleurs.
Sur les dialogues de films, non, je crois pas.
Mais il y a des moments où on se dit, putain, juste deux pages, c'est dommage, tu vois. Mais bon, on peut pas tout mettre dans un bouquin.
Non, bien sûr. C'est toujours le côté crève-cœur d'un livre. Mais
un bouquin sur toutes les phases de Booba qui ont été samplées par les autres rappeurs français, tu vois.
Mmh, c'est vrai.
Tu pourrais faire un livre. Pas Alibi Montana, let's voilà. Go! Oh là 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 là, avec les pochettes Pen & Pixel là.
Il y a une page aussi qui m'évoque un truc dans le bouquin, et peut-être qu'on peut terminer sur la partie un peu, voilà, vraiment rap, ses esthétiques, les traitements médiatiques, etc. Puis parler un petit peu juste de votre organisation avant de terminer l'émission. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça recontextualise un peu. À un moment, on disait, il y a des trucs qu'on sait plus s'il faut les qualifier de rap ou pas. Il y a un truc un peu comme
c'est
ça.
C'est moi qui dis ça, ouais.
Et il y a une page où vous dites, je sais plus comment vous le formulez, si c'est autour du rap ou un truc dans le genre. Mm-hmm. En fait, vous parlez des Bissona Bisso, de Tonton David, des choses comme ça. Mais ils sont quand même présents, mine de rien, dans un truc dédié au rap. Et ça me donne envie de discuter quand même brièvement de cette idée de qu'est-ce que l'esthétique rap, qu'est-ce qu'on peut qualifier de rap ou pas. Parce que ces gens-là, vous les mettez quand même dans la culture rap d'une certaine manière. Mm-hmm. On disait, aujourd'hui, on qualifie des trucs rap, je parle vraiment 2023. Est-ce que c'est vraiment rap? Je suis pas certain. Qu'est-ce que t'es tombé encore?
Le code de l'honneur.
Le code de l'honneur. Monument du 9-4, ça, bien sûr. Meilleur album de rock. Que des morceaux de 12 minutes, zéro refrain. Le mec, il s'en fout. Il se répète 5 fois, il se contredit 10. C'est génial. C'est génial. Écoutez le code de l'honneur. En plus, il est sur Spotify.
Il est revenu. Enfin, je crois.
Est-ce qu'en tout cas, le fait d'avoir fait une page comme ça sur les années 90, c'était aussi pour démontrer, ou pas forcément pour le démontrer, mais de fait, ça le montre, qu'en réalité, il y a toujours eu des frontières floues parfois, pour qualifier ce qui est rap ou ce qui ne l'est pas?
Bien sûr, mais aussi parce que t'avais une porosité évidente entre ces mouvements.
Rappelez-vous des refrains raga
sonic et tous les refrains raga, etc. Et même si on veut remonter plus loin, tous ces milieux se sont vachement fréquentés.
Début de Rap Attitude, la compagnie de Rap Attitude.
C'est quasiment la moitié. Il y a tellement de morceaux justement qui sont pas pur rap.
Bah oui, en fait c'était du raga, c'était du reggae, c'était du rap, il y avait de tout. Quoi.
Mais si je dis pas de bêtises, Crazy B était le DJ de Raga Sonic quand il s'appelait Rap Sonic, tu vois, des trucs comme ça. Rod Lyon, qui est un musicien de funk à la base et tout. Vachement irrigué Express D.
Les albums de premier album de Solar, c'est Cassius.
C'est Cassius, tu vois, voilà, exactement.
Tu sais que tu parles de Rod Lyon. Si
L'album de Solar, c'était Jimmy J, quand même.
Le deuxième, pour être exact.
On a quelqu'un en commentaire de ce podcast qui, presque sur chaque épisode, nous parle de Rude Lion. Mm-hmm. Moi, c'est un personnage que je connais pas très bien.
Alors, c'est un personnage qui a une vie, comment dirais-je, musicalement sulfureuse. Très riche, mais une vie très sulfureuse. Quelqu'un de... Il y a un bouquin qui est sorti sur lui, en fait, pour ceux qui veulent en savoir plus, qui s'appelle Le Rugissant, écrit par Raphaël Malquin. Alors je sais que le bouquin n'a pas forcément été bien accueilli par des gens de l'entourage de Rod Lyon. N'empêche qu'il est passionnant à lire. c'est quelqu'un qui a vraiment une vie de crapule, mais avec un génie artistique. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté dans le livre. On sait aujourd'hui, avec le recul, que c'est pas tout à fait faux. Mais comme d'hab, sur ces espèces de légendes, tu sais jamais justement quelle est la part de mythe et de réalité, tu vois. Et
la rue de Lyon, c'était quoi? C'était les clics, la clique expression directe.
Ouais, ouais. Voilà. Bon.
Trois quarts Cos la Caïra, bien sûr.
Donc voilà, mais avec un son quand même qui est complètement unique dans le rap français. Et même tu parlais de Bissona Bisso, toutes les connexions on les connaît très bien. Et puis aussi c'est le rap, c'est une musique qui s'est nourrie, c'est une lapalissade ce que je dis, hein. Mais on a tendance à l'oublier un peu aujourd'hui, des autres musiques, tu vois.
Et je pense au sampling, évidemment.
Je pense au sampling, mais je pense même aussi c'est différent, tu vois. Enfin, alors évidemment, en France autant qu'aux États-Unis, on a beaucoup samplé dans la soul et la funk, tu vois. Mais typiquement, la France a aussi samplé dans de la musique arabe, de la musique orientale, etc.
Ouais, ce qui, diaspora du pays.
Exactement, ce qui se faisait moins aux États-Unis, par exemple, tu vois. Donc c'est aussi ça une des richesses du rap. Et évidemment, bah, y a des liens entre la France et l'Afrique, les histoires de Bissona Bisso, etc. Bah, c'est toute la connexion avec le ministère Amin et compagnie. C'est évident. En fait, tu vois, aujourd'hui, c'est vrai que tu vois qu'on est dans un monde. Putain, j'ai l'impression de parler comme un géopoliticien chiant. Tu vois.
Non, vas-y, mais c'est intéressant. Vas-y.
Plus globalisé, où du coup, bah, les jeunes bouffent des influences en fait qui viennent.
Ils ont
du
les
monde
mêmes
entier.
Codes. Ouais, ils ont les mêmes codes où voilà. Qu'ils soient dans le monde.
Ils ont les mêmes codes où ils soient dans le monde, et surtout, ça circule mille fois plus vite.
Ouais.
Tu vois. Et c'est pas du tout pour faire le romantique. Moi, si tu m'avais proposé quand j'avais 15 ans d'avoir Napster ou Spotify, j'aurais dit oui direct.
Moi, j'ai grandi avec ça et putain, je suis content d'avoir grandi avec ça.
Par contre,
on n'avait pas nous.
Je vois que galérer 3 mois à récupérer des bandes d'une cassette et à m'enflammer des fois sur un freestyle sorti qui a été posé 6 mois plus tôt, mais il faut 6 mois jusqu'à ce qu'il arrive dans mon poste, tu vois. Bah, ça m'a aussi, tu vois, éduqué à une façon d'écouter de la musique différente, ouais, tu vois. Et encore une fois, ni mieux ni mauvaise, tu vois. Et bref,
rappelez-vous les clashs.
Ouais, bah,
à l'époque, il fallait attendre un an pour que le mec clashé puisse répondre, tu vois. C'était ouf.
Et voilà, pour répondre à ta question, bah, c'est simplement qu'en fait, c'est des musiques qui avaient une proximité. Et qui en plus, en l'occurrence, est une proximité historique. C'est pas une proximité de phénomène de mode ou de diffusion, etc. Tu vois, c'est des gens qui ont marché ensemble aussi, tu vois. Donc après, il y a l'exemple Cassius qui est un peu plus spécial, mais Jeff Dominguez en parle très bien quand il retrace son parcours dans les pages de l'ABCDR, comment ça s'est passé, que des trucs électro soient retrouvés avec du rap et tout, etc. Mais et finalement, même ça existait déjà un peu quand t'écoutes les débuts du rap, il est très musique électronique, tu vois. Les tout débuts du hip-hop aux États-Unis.
Ouais. Et qu'est-ce qui marquerait alors le. Parce que tu dis, voilà, il y avait déjà à l'époque une ouverture à d'autres genres, des liens entre des scènes, parce qu'il y avait des liens à plein niveau. Aujourd'hui, c'est plus exactement la même nature, d'après ce que tu nous dis, puisque c'est avant tout la circulation de l'information.
C'est comme ça que je le vois, en tout cas.
Oui, ouais. Et qui fait que, bah, on est abreuvé de plein de choses, et donc on s'en inspire, etc. Qu'est-ce qui fait que ça reste quand même du rap, alors, à ton avis? Est-ce que c'est le fait, simplement, c'est un truc purement technique, le fait que ça soit scandé? C'est ça le rap?
Pour moi, c'est. Je pense que ça joue beaucoup du côté des producteurs, en fait. Des productions. Quand on écoute un peu la new wave du rap français, même si y a des bruits de scie sauteuse et des synthés stridents, derrière le fond, ça va être quand même une rythmique trap, par exemple. Et je pense que c'est important de remettre aussi du crédit aux producteurs. C'est eux qui tiennent un peu, pour moi, les fondations ça reste du rap, parce que dans les sonorités, même par exemple le mauvais payeur de la fève, bon. Déjà, il rappe dessus, mais c'est presque boom bap un peu la rythmique de ce morceau. Je trouve que c'est vraiment dans le travail de production sonore, même si c'est très expérimental, on retrouvera toujours dans le fond une basse ou une rythmique.
Et en même temps, c'est assez limite ce que tu dis, dans le sens où la rythmique trap, on l'a trouvée ensuite dans toute la pop.
Oui.
C'est pour ça qu'on dit que le rap, c'est la pop.
Oui.
Mais du côté des rappeurs, je pense que c'est dans le. Comment dire? C'est pas chanter ou rapper, pour moi c'est vraiment la manière de les placements, même en chantant on peut avoir des placements rap. Et je trouve par exemple quelqu'un comme Luigi Pekka, il joue beaucoup avec ses frontières, mais lui se revendique comme rappeur. Et c'est vrai, quand on l'écoute dans ses placements, c'est du rap. Il y a, en fait, pour moi, le rap aujourd'hui, c'est plus effectivement quelqu'un qui scande quelque chose sans chanter. chanter. Le chant peut faire partie du rap aujourd'hui. C'est juste dans les vocabulaires utilisés, le placement et aussi le travail de production. S'il y a vraiment des éléments du rap à l'intérieur.
De toute façon, je te coupe, mais j'ai l'impression que même les jeunes artistes aujourd'hui, ils se revendiquent
ils
même
se
pas comme rappeurs.
Ils même plus comme rappeurs aussi.
Mais ils font du son, ils font de leur musique.
Bien sûr,
mais le débat revient quand même régulièrement. Est-ce que ça c'est rap ou c'est pas rap?
Ouais, non, mais le débat, il a toujours existé. Mais ce que je veux dire, c'est que, franchement, moi, toi, t'étais pas né.
Ouais.
Mais quand Bone Thugs & Harmony est arrivé dans le paysage rap US avec leur truc un peu chantonné, tu vois, c'était de l'harmonie, quoi. Donc les mecs, ils rappaient ultra vite. Et puis après, il y avait des moments où ils chantonnaient. Il y avait plein de gars qui avaient grandi avec Group Home, avec le Wu-Tang, avec Mobb Deep, avec tous ces groupes là de New Yorkais qui étaient là en train de dire c'est pas du peur à ça, tu vois. Et en fait c'est marrant parce que j'ai eu le même réflexe en 2014-2015 quand il y a eu PNL, tu vois, où j'étais en mode c'est chelou quand même, tu vois. Et en fait quand tu fais tomber les barrières et tout, tu fais c'est quoi, je vais donner sa chance au produit, j'écoute le truc, tu dis ouais vas-y, en fait c'est bon. Et
ça a quand même pris une autre dimension, je
mais
pense.
Mais par contre c'est vrai,
la question de ça, ce qui est
il y a toujours eu cette question.
Tu sais pourquoi passe-point? Parce que aujourd'hui des gens qui viennent d'autres courants musicaux vont avoir tendance à beaucoup plus se réclamer rappeur ou du rap qu'auparavant.
Oui, bien sûr.
Ça change quand même beaucoup les choses parce que justement.
Mais c'est pas grave. Enfin, en soi. Tu vois, moi, je me rappelle de l'époque.
C'est que ça floute un peu plus qu'auparavant, à mon avis.
Je me rappelle d'une époque où t'avais des artistes qui disaient, nous, il n'y a pas de meufs sur nos albums, tu vois. Parce que nous, on fait du peur, t'as eu.
Ouais.
On n'est pas dans la variété, on n'est pas dans les trucs comme ça, t'as eu. Nous, il n'y a pas de meufs qui chantent les refrains, là. D'ailleurs, il n'y a même pas de refrain, tu vois. Et en fait, c'était complètement con comme posture, tu vois. Enfin.
Par contre, c'est vrai que moi, en tant que journaliste rap, ça m'est déjà arrivé là avec, notamment la nouvelle génération, d'avoir certains artistes. Au début, je me dis ah ouais, j'ai envie d'écrire un truc sur l'ABCDR, et je réécoute, et en fait c'est genre la Jersey, de la dance, et là je me dis bah non, je peux pas en parler sur l'ABCDR parce que c'est pas assez rap. Donc
donc t'arrives à avoir un petit curseur,
en
une
gros, il sait, si je veux hurler, je le fais pas.
Ouais, non, j'ai avec là tous les nouveaux rappeurs qui mélangent beaucoup à la musique électronique, etc. Des fois, ils sortent des EP où en fait c'est full dance, chipmunk, autotune. Et là, je me dis, moi j'aime bien.
Full dance, chipmunk, autotune.
Ouais,
tu vois, j'ai même du mal à le prononcer tellement ça me bouleverse. C'est incroyable.
Et là, je me dis, même moi qui suis très
ouvert,
me dis, bah là, c'est trop loin de ce qu'est le rap à la.
Ah ouais, donc tu. Ok.
Mais ça m'arrive rarement. Mais ça m'est déjà arrivé avec les nouveaux artistes. Ouais.
Qu'est-ce que t'en penses, Zo? Parce que Brice a lancé quelques pistes que je trouve intéressantes, qui est l'aspect production musicale, avec des codes esthétiques sonores vraiment qui seraient propres au rap. Il y a le côté vocabulaire, code, il y a évidemment aussi le côté scandé et tout, mais d'après toi, ça a quand même moins de valeur aujourd'hui, on peut chanter aussi être rap, entre guillemets.
Après, je trouve que c'est important de continuer à rapper, attention, je suis à laisser d'air du son quand même.
Qu'est-ce que tu prends là-dedans? Quel est ton regard là-dessus?
Moi, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Je pense que déjà, il arrive au rap un truc qui n'est pas arrivé à beaucoup de mouvements musicaux, c'est que c'était une culture globale, tu vois, de hip-hop avec tout un truc autour, etc., et que ça s'est détaché.
Tu veux dire les différentes disciplines?
Ouais, les différentes disciplines, ouais, tout à fait, tu vois. Et que ça s'est détaché, tu vois. Et je pense que c'est pas arrivé à tant de mouvements musicaux que ça, tu vois, ce truc de multidisciplinaire, de famille, en plus avec toute cette histoire historique autour de d'où ça vient, etc. et tout.
D'ailleurs, ça c'est une erreur de journaliste que je tiens à dire ici. Il faut pas dire, quand on parle de rap, hip-hop.
Non.
Tout n'est pas hip-hop.
Non, tout n'est pas hip-hop, tu vois.
Le rap, c'est la discipline.
Voilà.
Et de l'autre côté, qu'une musique prenne son envol, sa franchise de code, etc. Tu vois, je te dis, moi, j'ai pas envie que la musique que j'écoute, elle reste monolithique. Ça m'intéresse pas, même si j'ai peut-être préféré des trucs d'il y a 20 ans, mais c'est un autre sujet, tu vois. Ça m'intéresse pas qu'une musique reste monolithique. Moi, j'aurais tendance à dire qu'en fait, le truc, dans le rap, moi, le truc où je me dis c'est du rap ou c'en est pas, c'est l'idée de performance. Pour moi, si tu prends un micro et que t'as pas envie de performer, tu fais pas du rap.
Ah, il parle de TH. Et ça, c'est pas cool.
Voilà. TH, je veux performer. Mais genre lentement, quoi.
La performance lente, c'est pas
mal. Non, mais la performance, pardon.
Tu peux performer lentement. On parlait de Fab tout à l'heure. Tu peux dire des choses hyper cinglantes avec un flow relativement lent, d'apparence posée, sans crier, etc. Tu vois.
Juste précise un peu ta pensée. Parce que tu vois, quand tu me dis ça, moi, j'imagine un chanteur, quel que soit son genre musical, où je me dis, dans la plupart des cas, face au micro, il va avoir, notamment s'il est en live, par exemple, il va avoir envie de performer avec son micro bien chanté, etc.
Ouais, mais
est-ce que c'est l'aspect compétition?
C'est pas l'idée d'avoir envie d'être meilleur que les autres?
C'est l'idée compétition un peu, et c'est aussi celui de mettre verbalement avec un instru, donc le producteur a toute sa part là-dedans, hein, des gifles, tu vois. Et quand je te dis des gifles, c'est pas forcément se faire crier dessus, tu vois. Une gifle, ça peut être très froid, très cinglant, ou à l'inverse même, c'est de la performance, ça peut être, tu vois, de donner une envie irrépressible de danser. Mais pour moi, c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait des codes un peu, tu vois.
Spécifique au rap, tout ça.
Non, des codes un peu genre funk, tu vois, de block party limite, tu vois, qui est pas la même fête que faire un pogo sur du rock ou de danser comme un dingue dans une free party, tu vois. C'est et je pense qu'il y a ce truc, mais quand même de performance qui pour moi est au cœur du truc, de savoir exister en fait tout seul face à un instru. Tu vois, c'est ça, d'être seul face à un instru et de savoir
même en si fait ça... c'est ça qui est, je te rejoins là-dessus, et c'est quelque chose qu'on a remarqué nous quand on est allé à FGO vendredi, c'est que on constate que tous les artistes qui sont passés, ils rappent sur bande.
Oui.
Et qu'en fait,
moi je voulais rap. Des vrais mecs. Parce qu'il y avait des mecs sur. Ils étaient là, les mecs. Mais ils prenaient, ils avaient pas de micro.
Après, le rap avec les live bands, c'est jamais ouf. Hein, mais ouais, un backer et un DJ, par contre, c'est essentiel.
En fait, il y a pas que ça. C'est que, tu vois, on a vu un petit qui. Comment c'est C-Lug.
Oui.
Ah oui.
Et en fait, tu te rends compte que toutes ces phases. Alors, pas toutes ces phases, mais peut-être aller de 2 sur 4. Tu vois, la moitié de ce qu'il balance, c'est des trucs qui ont été patchés en studio. Et qu'en fait, oui. En fait, la phrase, il peut pas la faire en vrai parce qu'il a pas de souffle, tu vois. Et donc, il est obligé de s'auto-baquer lui-même, tu vois. Et pour moi, c'est la limite du truc. C'est-à-dire que quand vraiment t'es pas capable, pour moi, hein, et c'est peut-être une vision de puriste, mais pour moi, un MC, il est capable de balancer en one shot son truc
en live.
Je suis
entièrement d'accord avec ça.
Franchement, il y avait des gens, des jeunes artistes. C'est peut-être ça viendra avec la maturité, hein, je sais pas, mais qui étaient là sur, ils étaient pas là pour performer, justement. T'en parlais tout à l'heure.
Et tu sens. Mais parce que c'est des postures.
Je sais pas.
Il y a aussi des postures d'artistes en mode, je fais le rap parce que j'ai que ça à foutre et je m'en bats les couilles, tu vois. Peut-être. Et puis t'en as qui sont investis en mode, non, c'est ma passion, mais on vise les étoiles et tout.
Mais performer, c'est pas spécialement crier c'est ma passion ou être vénère, tu vois.
Non, mais par contre, en général, lorsque tu as cette idée de performer, tu vas te dire que ça vient du cœur parce que le mec il met de lui. Ça veut pas dire crier, machin, etc. T'as raison. Mais à partir du moment où tu sens que quelque chose se joue pour ce mec-là, ou pour cette meuf-là, et bien forcément tu vas dire putain il est investi par son truc.
Mais aussi quand on parle de qu'est-ce qui est rap ou pas, je pense je repense à une, parce que j'ai récemment relu une interview d'Arsenic sur l'ABCDR du son c'était une interview en 2002 et c'était Lino qui justement parlait de ça, et je pense qu'aussi ce qui fait que quelque chose est rap ou pas, c'est aussi le fond de ce qui est raconté, qui est de raconter son quotidien au jour le jour, même en parlant des trucs qui sont un peu banals, de vraiment raconter sa réalité, que ça soit en chantant, en faisant de la trompette sous autotune ou quoi. Lino, bon, qui est quelqu'un qui est un peu bougon, dans la pop c'est je t'aime moi non plus, le rock c'est je prends de la drogue et voilà. Là où dans le rap on va parler de l'abri, on va décrire un abribus quoi, et je pense aussi qu'il y a ça aussi même dans les artistes aujourd'hui qu'on qualifie de rap, ce truc de juste dire j'ai pas de thune en ce moment, j'ai une peine de cœur, c'est chiant, je vais à la supérette et je m'achète une 8-6 quoi.
Oui, mais c'est bizarre parce que tout ce qui fonctionne au sens commercial du terme, c'est plutôt les mecs qui disent je roule en Maybach, j'ai des quichetas de ouf, je prends le jet, tu vois.
Oui, mais ça raconte un faux quotidien, c'est raconter un quotidien.
Non, mais et là où je crois que c'est un truc pertinent là-dedans, c'est que on parle souvent de l'authenticité que devrait avoir un rappeur, le fait que celui qui a écrit, celui qui interprète, ça doit forcément être le même. Alors, on sait que ça se passe pas comme ça en réalité. Mais on est beaucoup plus exigeant vis-à-vis de ça que dans d'autres genres musicaux.
Ouais. Les auteurs.
Et ça va un peu dans la lignée de ce que tu racontes, quoi, du truc du jeu, de la subjectivité, qui c'est pas exclusif au rap, mais qui a une importance. Et je pense que ce que t'as évoqué aussi, la performance, le combat, etc., Zo, c'est pertinent aussi. En fait, si on prend chaque truc individuellement, on peut l'appliquer à mon avis à d'autres genres musicaux. Mais si on prend ce panel et qu'on commence à se dire peut-être qu'on peut un peu cocher, etc., on commence à pouvoir dessiner peut-être les caractéristiques.
Fais un récap, c'est-à-dire il faut que tu écrives tes textes toi-même, que tu sois dans la performance, dans le quotidien.
Non, mais il faut pas tout cocher. Mais en tout cas, tu sais.
C'est quoi alors 2 sur 3
T'exagères, mais c'est pas aussi mathématique.
Non, mais c'est une question super dure à laquelle répondre en vrai, parce que comment définir un genre musical qui en plus a tellement évolué ces dernières années, tellement changé. Mais
en fait, moi, c'est vraiment le ressenti. En fait, je me pose même pas la question. C'est vrai que je me pose même pas la question. Ça se trouve, je crois écouter du rap, alors que j'écoute de la polka et je suis pas au courant. Tu vois.
Quand tu fais de la musique, ton but, c'est d'occuper l'espace, tu vois, de façon immatérielle. Et je pense que le rap a sa propre façon de le faire, tu vois. Voilà. Après, derrière, moi, c'est sûr qu'il y a des trucs aujourd'hui. D'ailleurs, j'entends beaucoup plus souvent parler de musique urbaine, quelle horrible expression.
Quel enfer.
Que de rap. Mais il y a des trucs, je me dis, bah ouais, en fait, c'est tellement devenu hybride, etc. Et tu reviens sur le rock, il y a des trucs, à un moment, on a commencé à en parler comme de la fusion. Tu vois, on voulait plus dire, ouais, c'est du hard rock, c'est du heavy metal, c'est du rock. Et on n'osait pas dire que c'était du rap non plus, tu vois. Il fallait surtout pas dire que c'était du rap, d'ailleurs. Tu vois. Et il y avait déjà cette problématique-là, tu vois. Donc, c'est genre un peu hybride, mélangé, qui commence à toucher à tout. Est-ce qu'il faut vraiment les définir? Je sais pas. Par contre, moi, si tu me demandes ce que c'est du rap, ouais, clairement, il y a cette idée de performance, d'authenticité, pas dans le sens... pas dans le sens d'hyper-réalisme, parce que tu vois, l'authenticité, ça peut être parler de tes rêves, ça peut être faire des storytelling qui se parle à toi, tu vois, voilà, de spontanéité, tu vois, dans ce sens-là. Après, pour revenir à un truc que tu disais qui m'a beaucoup intéressé, moi, je pense que ça a beaucoup dénaturé le rap, que les rappeurs n'aient plus besoin de se confronter entre eux. Ça veut dire qu'ils fassent leur musique en home studio, et que pour voir ce que c'était d'un autre rappeur, etc. et tout, ils doivent pas descendre dans un cypher, dans un freestyle, dans une émission radio, et se dire, bon, bah là, si je suis pas bon, en fait, je vais me faire manger, tu vois. Et d'ailleurs, tu le vois sur le rapport des jeunes artistes au live, ils ont énormément de mal, je parle des jeunes rappeurs, à s'y mettre. Ils ont énormément de mal à s'y mettre. Tu vois que pour eux, c'est une frontière, un point de bascule incroyable, tu vois. Et c'est pour ça aussi.
Ils sortent de leur chambre, hein, littéralement, quoi.
Mais littéralement, bien sûr, ouais. Et c'est pour ça aussi que je reviens sur cette idée de performance, tu vois. Et c'est pas pour romantiser le truc du cypher, du freestyle à l'époque et tout, même si moi, c'est un truc qui me tient particulièrement à cœur. Mais faut pas croire que la vie, c'est 8 Mile, tu vois. C'est un peu plus compliqué, quand même. Mais ça, je pense que c'est un truc qui a transformé profondément cette culture, tu vois. Voilà. Et cette musique, même, tu vois. Parce que aussi, avant, t'étais tellement obligé d'être fort face à des gens, enfin, en tout cas, de savoir te défendre au sens verbal du terme, hein, tu vois. Parfois au sens physique d'ailleurs, mais surtout au sens verbal, surtout au sens verbal du terme, que ça a conditionné, je pense, des mecs à faire du son d'une certaine manière. Et comme t'es conditionné différemment, quand tu peux faire ton son dans ta chambre, avec ton producteur qui t'envoie des fois à l'autre bout du monde les instrus que tu lui as demandé et que t'as sélectionné à l'avance. Donc c'est pareil, c'est pas ton seul pote qui fait du son avec toi à côté, où tu dois t'adapter à ses goûts musicaux, te mettre en face, enfin, tu vois.
Je trouve ça cool d'avoir les deux, justement.
Mais je dis pas du tout que ce qui est aujourd'hui est problématique, tu vois. Mais je dis que pour moi, ça a profondément transformé cette musique, et que ça me la rend très difficile à définir, parce que pour moi, les critères, en fait, qui me permettaient de définir du rap en 90, en 2000, en 2005, et même encore en 2010, 2012, 2013, ils ont complètement été balayés.
Après, quand on regarde, par exemple, on parlait de l'entourage tout à l'heure, quand eux, ils sont arrivés, il y avait ce côté open mic, kicker, et tu vois, il y avait quand même...
Mais ils ont voulu s'en détacher, tu remarqueras.
Ouais.
Tu vois. Pour le pire et pour
sauf
le meilleur.
Alpha One, du
sauf
coup.
Alpha One.
Sauf Alpha One.
Et c'est celui qui vend pas. Et ben voilà. Et ben
bien sûr qu'ils vont.
Oui, une main lave l'autre, très, très bon album.
C'est sur le rapport à l'authenticité, d'ailleurs. C'est plus en réalité un rapport au réel qu'à l'authenticité, d'ailleurs, je trouve. Ce que j'entends par là, c'est que, par exemple, si on fait la différence avec l'image, enfin, le parallèle avec l'image, on dit souvent le documentaire, lui, est ancré dans le réel, la fiction non, etc. Alors qu'en fait, le documentaire travestit aussi le réel.
Oui, et que la fiction parle du réel énormément.
Et que la fiction peut tout à fait représenter le réel sans que ce soit capté réellement directement, mais parce que on nous montre, c'est construit d'une telle manière, on se dit, c'est vrai que ça dit quelque chose de notre réel. Et je pense que c'est surtout ça qu'on attend des rappeurs. Ils peuvent s'inventer une vie, mais ils disent quelque chose du réel.
Il faut que ça soit une description réaliste.
C'est pas tant réaliste. C'est ça.
Pour moi, ça c'est Nas, par exemple. Ça peut ne pas être eux,
mais ils disent quelque chose qui résonne et que tu te dis, c'est vrai que je peux observer ça dans notre société.
Ouais. Moi, je suis 100% d'accord avec
ça. Les rappeurs mythos, en fait, décrivent le rêve de beaucoup de gens d'accéder à la richesse.
C'est pas des mythos. Si, c'est des mythos. c'est des mythos, mais on devrait pas. On devrait prendre ça comme une proposition artistique. Alors que nous, on avait tendance à prendre ça comme une proposition tout court. Tu vois. Et genre, tu te fous de ma gueule, tu vois. Mais c'est vraiment typiquement français, ça. C'était vraiment dans le rap français qu'il y avait ce truc-là. Parce que vraiment, parce qu'aussi, peut-être les autres s'en foutaient.
Plein de gens avaient besoin d'être représentés, je pense. Tu vois. Et du coup, il y avait un truc d'affect.
Quand Nas, il écrit New York State of Mind, à aucun moment, tu penses que Nas, c'est un mec qui prend des flingues et qui va tirer à droite. Mmh. Et pourtant, tu vois, il a I Gave You Power, I Gave You Power, tous ces trucs-là. Mais Rick Ross, il s'est fait tester parce qu'après, on a découvert qu'il était
ouais,
gardien
mais
de prison.
Après, mais... on est foutu après. Parce
oui,
que
mais voilà. En fait, quand Nas, il sort du Queens, tu vois, alors qu'il tourne avec les Mobb Deep, Cormega, etc. Et franchement, Nas, personne n'a remis en question son authenticité. Alors que tout le monde savait très bien que son père, il est jazzman et que c'est pas du tout un gangster, en fait. Mmh. Tu vois? Et d'ailleurs, il a eu sa phase. À un moment donné, tous les rappeurs américains, il fallait qu'ils se mettent en costard et qu'ils fassent comme s'ils étaient dans une mafia, là.
Oui,
tu vois
bien sûr.
Voilà. Donc, Nas, il a eu The Firm, tout ça. Il en est sorti parce qu'en fait, ça sert à rien, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que t'aurais pas pu avoir un mec qui parle des choses comme Nas en parlait sans en prendre part, sans y prendre part en France. C'est très dur d'avoir des gens qui chroniquaient. Alors, t'avais peut-être Kerry James, donc Idalji. Mais sinon, les trois quarts, ils étaient observateurs slash acteurs du truc. Tu vois, il y avait pas un gars qui se postait dans un coin et qui racontait le quartier, en fait. Tu vois, parce que en France, il fallait participer. Et si jamais tu disais que tu participais, t'avais intérêt à être vraiment participant.
C'est vrai.
Et ça, on en est sorti. Là, maintenant, on en est sorti. Maintenant, on tourne au grand guignol. Tu vois, moi, pas une seule seconde, à part Koba. Qui lui, limite, ça pourrait servir de preuve à conviction contre lui si jamais il se fait péter. Mais à part Koba, etc., t'as les trois quarts des artistes, en fait, tout le monde s'en branle. On sait très bien que tu vends pas ce que tu racontes et que...
Oui, bah sinon, ça serait de l'auto-snitch, quoi. Donc.
Ben voilà.
Mais tu sais que ça existe. Il y a un genre musical absolument incroyable mexicain, que c'est les narco-corridos.
Oui.
Ok.
Les narco-corridos, en fait, c'est justement des chansons où on raconte les exploits d'un narco-trafiquant. Ouais. Okay. Sauf qu'en général, c'est vrai.
Avec les chapeaux, là. Ils ont les chapeaux
des problèmes
les bottes,
derrière.
Là.
Ah oui.
C'est vrai, c'est vrai. Mais après, bon, vu qu'ils n'ont pas la police là-bas, enfin.
Oui, mais bon. Parfois, elle est corrompue.
Oui, voilà. Ça, c'est pas un souci, ouais.
Est-ce qu'on se fait une petite dernière partie rapidos, peut-être? Ouais. Ça fait, je sais pas combien de temps, mais on en revient.
6 heures.
De temps, déjà. Mais sur votre fonctionnement, c'est une deuxième partie, troisième, quatrième, je sais pas comment on a chapitré ça, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a quand même un minimum de frais de fonctionnement pour un média, ne serait-ce que l'hébergement, par exemple, il faut un serveur, etc.
Ça, c'est pour lui.
Vous faites un peu d'argent quand même.
Le techo.
Vous êtes tous bénévoles, il y a pas de pub, il y a pas d'abonnement. Comment vous...
Oui, mais il y a une asso.
Comment vous chopez un minimum d'argent?
En fait, la BCDR jusqu'à... Ouais, 2019, en fait.
Et ça coûte cher, les serveurs.
Ça coûte cher. On payait, effectivement, pour écrire sur la BCDR. Il fallait bien mettre un moment à la poche 10-15 balles chacun, 30 balles pour payer un hébergement et renouveler un nom de domaine.
C'était annuellement.
Ouais, c'est annuellement, ou des fois on essaie de payer 2 ans, mais voilà quoi. C'était le seul coût, en fait. Tu vois, voilà. Il n'y avait pas d'autres coûts. Et alors, il y a eu l'époque Dailymotion, mais c'était en fait à ce moment-là, et je le dis pas comme une critique, hein, mais il y a eu deux ABCDR dans l'ABCDR. T'avais un ABCDR qui gérait les émissions, t'avais un ABCDR qui gérait le site. Et t'avais une ou deux personnes dans les émissions, trois même, qui faisaient passerelle entre les émissions
et la
rédac écrite, tu vois. Mais ça restait quand même deux activités distinctes, tu vois, voilà. Et quand le livre est arrivé et qu'on a commencé à encaisser un petit peu d'argent grâce à ce bouquin, bah tout simplement, ça a permis d'anticiper plein de frais de fonctionnement. Là, aujourd'hui, le site a été, le nom de domaine a été renouvelé. Je crois que je l'ai renouvelé jusqu'à 2032, si je dis pas de bêtises.
Ça va.
Donc, voilà, comme ça, merci, on n'en parle plus. L'hébergement, j'ai fait le plus long possible que propose notre hébergeur. Je crois que c'est jusqu'à 2027 ou 2028. Bon, ouais, on a lâché un gros billet de 3000 balles d'un coup sec, tu vois. Mais voilà, au moins.
On est tranquille.
Même si on dépense tout comme des oufs. Tu vois, comme dans une belle chanson de trap comme t'affectionnes.
Exactement.
Voilà, bon, bah, c'est bon, ce sera fait, quoi. Après, derrière, en vrai, des frais de fonctionnement, on en a très peu. C'est juste qu'aujourd'hui, on peut se permettre des trucs qu'on pouvait pas se permettre. Alors là, le podcast sera diffusé après, mais au moment où on enregistre, demain, on fait une soirée dans une salle qui a un peu de la gueule. On a peu besoin de chercher des partenariats, demander des gens. Alors, c'est une salle avec qui on s'entend bien, qui nous fait confiance, et c'est mortel. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on y va, et on se sent bien là-bas. Mais en vrai, ouais, effectivement, on peut se dire, vas-y, on prend le risque de perdre... Je donnerai pas de montant précis, mais quand même un peu d'argent dans une soirée.
Pour célébrer
la sortie du bouquin, tu vois.
Parce qu'après, on n'est pas un média très dépensier non plus, voilà. Le reste de l'année, quoi.
Vous avez une rédac physique?
Non, alors ça, c'est pareil. Il y a plein de gens qui nous écrivent. C'est très marrant. Il y a plein de gens qui nous écrivent pour des stages.
Nous, c'est pareil. On reçoit des DM régulièrement de stages, mais on est chacun chez nous. Ouais, voilà. Tu vas pas venir chez moi, mon gars.
Alors, tu sens les demandes où le mec envoie la terre entière sans réfléchir, mais t'envoies d'autres, tu vois, où les gens taffent leur demande. Tu vois qu'ils lisent un peu ce que tu fais, qu'ils connaissent, quoi, tu vois. Et souvent, tu vois la surprise, en fait. Bon, vous avez pas de bureau, tu vois, vous avez pas de locaux.
J'écris en pyjama chez moi.
Et, et surtout, vous faites la BCDR sur votre temps libre, tu vois. Waouh, tu vois. Bah, en fait, pour
mais
moi,
c'est
pas du tout un exploit, en vrai. Hein. C'est ce qu'on fait depuis toujours, donc il n'y a pas un exploit, mais voilà.
Comment vous créez une cohésion, un esprit de corps, sans avoir
on
de.
On va boire des bières.
Ouais, ok.
Non.
Parce qu'au niveau de la situation géographique de toute la rédac, vous êtes éparpillé ou.
Deux tiers Paris, un tiers ailleurs. Okay. Je dirais à peu près en gros du 60-40 quoi, 60 ouais. Paris, enfin soit Paris, Île-de-France,
Paris, Île-de-France ouais, ouais.
Et 40% ailleurs, je dirais à peu près.
Oui, environ.
Ouais, ouais. À peu près oui. À ça.
Et après vous avez des réunions, des soirées. Que
en
vous
fait, on a un espace de rédaction
rédac,
interne ouais. Où on échange tous les jours, où chacun, le truc qui est bien dans cet espace, c'est que chacun voit ce que chacun propose, voit d'accord. Les articles et tout. Donc ça te donne en fait une certaine, enfin c'est un espace de transparence en fait, tout simplement, tu vois.
On a aussi un groupe WhatsApp.
Ouais, on a un groupe WhatsApp.
Vous faites des calls quand même, des conférences régulières.
Pas trop. Brice essaye d'en faire pas mal, mais on sent que Brice s'est pas fait maltraiter par le télétravail et la génération Teams et compagnie.
Il déteste les visios. Voilà. Donc on s'engueule tout le temps sur ça.
Si mon employeur se voit, il doit bien se marrer en m'entendant prononcer cette phrase. Et il y a surtout en fait, on essaie de prendre des décisions. Alors. Tu peux pas toujours à l'unanimité. Ouais, enfin,
on a compris.
Tous ensemble.
Voilà, tous ensemble. Mais on essaye quand même de les prendre tous ensemble.
Il y a une chefferie.
Non, il y a une coordination.
Ok.
Voilà, mais il y a pas de chefferie, non. Après, le coordinateur sert effectivement à trancher si vraiment un jour il faut dire non, bon, là on s'arrête. Ouais. Voilà.
Ça arrive ça que.
Ouais, mais pas souvent.
D'accord.
Voilà. Et le coordinateur aussi est là pour prendre éventuellement des décisions un peu urgentes où il connaît assez bien les gens pour se dire bon, ça je peux le faire.
Ouais.
Et même s'il y aura un petit débat derrière, on me dira peut-être ouais, leur fait pas deux fois, mais en tout cas les gens savent qu'il n'y a rien à l'envers derrière, quoi. Voilà.
C'est mais c'est vrai que le fait qu'en fait on sonde beaucoup les gens pour avoir des décisions collectives, ça permet aussi de même les gens qui sont pas à Paris. D'être impliqué au quotidien avec nous, quoi.
Mais le vrai truc, moi, pour moi, qui cimente l'équipe, c'est les papiers collectifs.
Ah, ok, j'allais dire le podcast aussi.
Ouais, enfin, tout ce qui est collectif, en fait.
Oui,
ouais.
C'est vrai.
Tous les papiers collectifs, ou même le livre, là, tu vois, etc. Ouais. C'est, en fait, surtout qu'en général, les papiers collectifs, ils sont un peu ambitieux, tu vois. Après, ça reste l'ABCDR avec les moyens du bord, etc. Et ça dégage une vraie fierté, un vrai sentiment d'appartenance et de cohésion, d'objectifs communs, etc.
Mais du coup, il y a des guidelines à respecter quand tu bosses pour l'ABCDR, quand t'écris pour l'ABCDR. Est-ce que tu dois avoir un certain registre de langue? Est-ce que tu dois, au niveau des angles que tu choisis, comment tu t'assures que, par exemple, t'as des recrues qui arrivent, tu vois, tu parlais de sept nouvelles recrues, en tout cas récentes,
ouais.
Dans la rédac, c'est quand même un sacré nombre.
C'est
la moitié quasiment. Donc, comment tu t'assures, en fait, de pas perdre l'identité de ce qu'est l'ABCDR quand justement tu renouvelles autant le.
Bah, c'est en accompagnant beaucoup les nouveaux arrivants. Et donc en faisant, on fait beaucoup de retours en fait sur un article d'une personne qui arrive dans les premiers mois, et
d'accord.
On fait des fois des V2, des fois des V3.
D'accord.
Mais en faisant des retours constructifs, enfin c'est vrai que j'envoie souvent des mails un peu longs avec point par point.
Ouais.
Ça tu pourrais faire comme ça, ça tu pourrais faire comme ça. C'est pas des trucs lacunaires, change ça.
Ouais, mais ça veut dire que toi. En fait, du coup, en plus du taf que tu dois réaliser pour le site,
oui, effectivement,
t'as cette activité plus de,
c'est ça.
Ok, de non, correcteur.
Mais,
de...
mais ça me plaît parce que j'ai envie de faire perdurer. J'ai l'impression un peu à mon petit niveau de faire perdurer l'histoire de la BCDR en accompagnant des nouvelles personnes. Et après, globalement, en fait, la seule règle, j'ai l'impression, c'est de, je trouve d'avoir de la, enfin, les deux règles, c'est d'avoir de la rigueur et de l'honnêteté dans l'analyse, quoi. Dans l'écriture de d'être précis, de remettre les choses dans leur contexte, et ensuite la chose aussi où je pense qu'il faut toujours faire attention en tant que webzine fait par des gens à la base bénévoles amateurs, c'est de ne pas d'essayer le plus possible d'écrire en tant que critique et pas en tant que fan. Parce que c'est vrai qu'on fait ça sur notre temps libre, donc on écrit souvent sur des choses qu'on aime.
Bah oui. Et il faut de la distance.
Voilà. Ouais. Et ce que je dis souvent aux nouveaux arrivants, c'est essaie de masquer un peu ton enthousiasme en te. Ouais, je suis honnête, en te basant plus sur vraiment des choses concrètes. Pourquoi, selon toi, musicalement, c'est réussi? Pourquoi, dans les textes, c'est réussi? Ouais. Avec des arguments. Et c'est ça qui fait, je pense, aussi la bonne réputation de l'ABCDR, c'est que même si on est bénévole, parfois amateur, on essaie d'avoir un niveau d'analyse avec le plus d'analyse et de rigueur, et aussi d'essayer de tendre le plus vers le journalisme possible, ouais, et moins vers
le fanboyisme.
Ouais. Voilà quoi.
Mais c'est compliqué de demander ça à des gens qui sont pas payés.
Comme Brice a dit, faut les accompagner. Mm-hmm. Effectivement, ils sont pas payés, mais c'est un espace de liberté qu'ils trouveront rarement ailleurs. Ouais. Parfois aussi, certains s'y forment et font autre chose derrière. Ouais. Et certains partent, mais d'autres restent en continuant à faire autre chose, tu vois. Après, comment dire? D'une part, moi, je crois pas à l'idée de journalisme musical. Je pense que, par contre, on se sert, comme Brice l'a très bien expliqué, des outils du journalisme. Mmh. Et c'est ça qui...
C'est intéressant, ce point de vue. Pourquoi tu crois pas au...
Parce que quand tu fais de la chronique musicale, on va dire, tu produis pas vraiment d'informations, en fait. Tu produis du savoir, de l'analyse. Mmh. Éventuellement, tu vas avoir un peu d'informations à travers des interviews ou alors des sources que tu vas relayer dans ton papier, etc. Mais je veux dire, tu produis pas vraiment
du travail journalistique.
Tu produis pas vraiment du fait. Alors c'est peut-être que je réduis moi aussi énormément la profession de journaliste. Tu vois, peut-être que finalement il y a des gens qui non, ouais, mais c'est pas que de l'investigation. Mmh. C'est même tu as du journaliste très factuel d'agence de presse notamment. Tu vois, où il y a aucune investigation. Le mec raconte simplement ce qu'il a vu. Tu vois, voilà. Sauf que là, en fait, quand un disque passe, tu racontes certes ce que t'as entendu, mais tu rapportes quelque chose d'artistique. Tu rapportes pas un propos factuel. T'imagines si ma chronique c'était oui, alors Caris commence à raconter qu'il roule sur les zébras. Tu vois, voilà. Super, merci, tu vois. Voilà. Bon.
Donc, tu racontes ce que tu ressens, en fait.
Tu racontes ce que tu ressens, tu vois. Donc pour moi, t'es pas vraiment dans le journalisme. Par contre, c'est très important
de
le
faire.
C'est
un peu le gonzo, peut-être, non?
Ouais, éventuellement. Mais pareil, le gonzo, il y a plein de débats à avoir dessus. Et j'adore, hein, vraiment. Hein, grand respect pour Hunter S. Thompson et toute l'école et tout. Mais voilà. Mais pour moi, c'est pas vraiment du journalisme. Par contre, utiliser les outils du journalisme, comme vient de le décrire Brice, c'est capital. Mmh. Parce que ça te permet d'être précis, rigoureux, analytique, savoir mettre de la distance avec ton lecteur tout en l'impliquant. Enfin, il y a plein de choses, on pourra en parler, à hiérarchiser l'information. Mmh. Il y a plein de choses à dire là-dedans, quoi. Donc, pour moi, c'est important. Après, ce qui a été dur, je pense aussi à un moment pour nous, et ça c'est cool que Brice lui ait plus les codes qu'un mec comme moi, c'est qu'on a longtemps recruté, je le disais avant que t'arrives en off, sur détection. Et quand je dis sur détection, c'était notamment via les blogs.
Ah, ok. Mmh.
Aujourd'hui, il y a quasiment plus de blogueurs, tu vois.
Ça, c'est triste un peu.
Et il y a quasiment... En soi, c'est des gens qui montent déjà leur petit média hip-hop et t'as pas envie... Enfin, rap, pardon, excusez-moi. Et t'as pas... et t'as pas envie, de débarquer et de leur dire « Ouais, vas-y, je prends les deux meilleurs de ton média où vous êtes déjà trois seulement à galérer comme des chiens. » Voilà, tu vois, ça se fait pas. Au contraire, t'as envie qu'ils grossissent, tu vois. T'as envie d'avoir un écosystème autour de toi, etc. Et sinon, c'est des gens qui font des trucs sur Twitter.
Ouais.
Et même si des fois tu vois qu'ils écoutent super bien la musique, parce que c'est pas que des gens qui disent des conneries, tu vois,
ouais,
ça veut pas dire qu'ils savent écrire, et ça veut encore moins dire qu'ils aient envie d'écrire. Ouais. Tu sais pas s'ils ont envie d'écrire, tu vois, et si le mec a pas envie ou la nana, ça sert à rien d'aller le voir, tu vois. Mmh. Donc aussi, on a été un peu paumé à un moment, à plus savoir comment approcher les gens, ouais, et ça, Brice, lui, a su, via une démarche, notamment de se dire, bah vas-y, on se décomplexe, en fait, on va
sur TikTok, on va sur appel à candidature directement.
Voilà, tu vois, publiquement, ouais. C'était, enfin, moi, tu m'aurais dit ça il y a 4 ans, j'aurais grincé de dos, tu vois. J'aurais fait, mais t'es où? Je vais aller ramper sur Twitter pour trouver des rédacteurs. T'es un malade, quoi, tu vois.
Oh, la fierté hip-hop, tu vois.
On veut pas d'aide. On demande pas notre chemin, on s'en bat les couilles, on sera perdu.
Et donc voilà. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, pour répondre à ta question, c'est même pas comment tu fais, tu te rends compte qu'il y a des gens qui veulent.
Ouais. Et qu'il y a plein de gens qui écrivent.
Et qu'il y en a plein, en fait.
Et qui ne le publient jamais, en fait.
Ouais. Il peut y avoir une question quasi morale autour du bénévolat, de se dire, putain, après 20 piges, On paye toujours pas de gens, ils s'investissent beaucoup, je commence à être gêné.
Non. Enfin, moi, en tout cas, non.
Bah, s'il y a pas, s'il y a pas d'oseille.
Personne n'est payé.
Bah oui, si personne ne gagne, Par contre, s'il brise demain, bon, bah, voilà. il arrive en Maybach.
J'arrive en Maybach avec un logo ABCDR sur la Maybach. Là, on va se poser des questions.
Oui, en fait, tant que, je pense qu'effectivement, là-dessus, tant que tout le monde est au même statut, au même niveau, il n'y a pas trop de questions à se poser.
Ouais, et puis, je vais pas cacher les chiffres. Un livre comme L'Obsession Rap, ça rapporte en 4 ans environ 30 à 40 000 balles.
Pas beaucoup, hein.
Franchement. Donc,
combien d'exemplaires vendus à peu près?
Ça, je le dirai pas.
Okay.
Soit je dis le nombre d'exemplaires, donc ce sera, les gens recroiseront avec une autre interview, mais je dis pas le prix, le nombre d'exemplaires.
Faites vos recherches.
Voilà, faites vos recherches. Mais, les outils du journalisme, les enfants. Mais, ouais, donc, répartir ça à 20 rédacteurs. Quel sens ça, honnêtement? Tu vois? Ouais. Quel
surtout
sens
tu,
ça?
Tu liquides tout en
4
ans,
quoi. Sur 4 ans, en plus.
Et en plus, surtout, en fait, tu sais, des fois, il y en a, ils participent pas au site pendant un an parce que, comme ils sont bénévoles, bah, ils ont aussi leur vie perso. C'est l'année où il y a un truc qui a pas été dans leur vie, ou juste l'année où le rap les intéressait pas.
C'était une question que j'allais poser justement.
Vois, etc. Et tu vas compter comment à la fin de l'année? Ouais, alors toi, t'as écrit 10 papiers, ça vaut. Enfin, t'imagines les comptes malsains d'apothicaire et tout, tu vois. C'est l'horreur, tu vois.
Écoute, t'as écrit 10 papiers, mais de 150 000 signes chacun. Et hop, c'est toi qui prends la timbale.
Et c'est aussi ce qui fait. Alors, c'est peut-être romantique, mais qu'il y a une cohésion. Tu vois, qu'en fait, la fierté des trucs collectifs, il y a pas d'autre enjeu que la fierté derrière de l'avoir fait, de trouver ça cool.
Oui, c'est vrai qu'il y a un esprit associatif en fait derrière ce média. Moi, pour avoir été aussi dans l'associatif, je retrouve beaucoup de points communs dans l'envie de mener quelque chose collectivement sans chercher d'argent derrière, quoi.
Mais ça veut dire que donc c'était la question que qui me venait aussi naturellement en vous écoutant. Si je rentre à l'ABCDR en 2010. Ouais. J'écris régulièrement et je fais vraiment partie de l'équipe.
Ouais.
Puis après, effectivement, ma vie change, machin, mais je lâche jamais le truc. Je dis jamais, je passe ça à autre chose. Donc, de fait, je suis encore membre du truc. Mais ouais. Est-ce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un au niveau de la coordination qui va peut-être dire, bon, frérot, ça fait 8 ans, t'as pas sorti un papier, peut-être qu'on peut considérer que tu fais plus partie de l'aventure, tu vois.
Non, mais y a
est-ce plus... que vous virez des gens, quoi?
C'est très rare. C'est très, très rare. C'est arrivé, mais c'est très rare. Et en général, quand on vire quelqu'un, on sent que ça prend pas, en fait.
Ouais.
On l'a fait venir c'est même pas une question de pas s'entendre ou quoi, c'est on sent qu'il y a un truc dissonant, tu vois. Mais c'est même pas une question de juger la personne dans le sens ce mec là je le sens pas et tout, hein, c'est juste il y a un truc qui
ça prend pas, quoi.
Le mec s'inscrit pas dans la dynamique du truc, etc. et tout. Après, une fois que quelqu'un a apporté quelque chose au site, finalement il peut être relativement silencieux pendant 5 ans. La seule chose qui va s'imposer, c'est qu'à un moment on n'attendra pas son avis pour faire des choses.
C'est normal, c'est aussi tout, ouais, bien sûr.
Il va pas, ou elle va pas, il ou elle va pas se pointer comme une fleur et rien faire pendant 5 ans et dire ah non, ça je ne suis pas d'accord, tu vois. Sauf si c'est vraiment bien tourné, qu'il fait attention les enfants. J'ai pris du recul, je vois que vous êtes en train de perdre votre ADN, tu vois. Voilà, bon, si le mec il arrive vraiment à te toucher.
Il arrive comme ça,
il arrive vraiment à te toucher la corde au cœur, tu fais bon, ok. Là, on va...
Normalement, il sait bien écrire, en plus, voilà, il peut t'avoir.
Voilà, exactement.
fais-le bien.
Là, tu dis, ouais, il sort de sa retraite pour venir me dire ça, tu te dis peut-être, ah, quand même, tu vois. Voilà. Mais non, sinon, c'est déjà arrivé qu'on vire des gens et j'en suis un peu navré. Mais bon, voilà.
Oui, parce que virer des bénévoles, du coup, ça veut dire que pour la personne qui se fait virer, vraiment, t'es au-dessous de tout.
Non,
c'est comme rater son suicide.
Non, c'est-à-dire que la personne, souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un ou des gens qui, je vais faire ça, et ne le font jamais, et donnent plus de nouvelles, donc, d'une certaine manière.
Mais ça, c'est ultra hip-hop, je suis désolé,
mais là,
t'as décrit Danny Dan, par exemple.
C'est un peu comme, c'est comme si on se faisait ghoster journalistiquement, et on se dit, on va arrêter, quoi.
C'est 100% hip-hop, ça. Il faut.
Ouais, mais on peut pas partir sur ces bases-là. Faut d'abord que t'es déchiré en freestyle, comme on parlait tout à l'heure.
Ok.
Et après, tu peux te permettre de ghoster, tu vois.
Ouais.
Mais c'est déjà arrivé, par exemple, que quelqu'un qui a pas écrit pendant des années, comme Jean-Baptiste Vieille, dont on parlait au début, en 2019, il avait un peu quitté le site. Il avait quitté le site.
Ouais.
Et il a ressorti un article sur les archives perdues du rap français.
Il a même fait plus que ça. Il m'a assisté dans la coordination du livre.
Il est assisté sur le livre aussi. Il est revenu. Ouais, c'est vrai.
Il m'a pas assisté. D'ailleurs, il a co-dirigé le livre avec moi. Il en a fait autant que moi. Si ce n'est
Donc c'est un fat comeback, comme on dit.
Oui. Ouais. Et après là, il est reparti.
D'accord. Il y a des gens comme ça, c'est un peu des comètes de Halley, quoi.
Le livre l'a tellement bousillé. Moi aussi, d'ailleurs, il a fait plus jamais, les gars.
Non, si humainement on s'entend bien avec la personne, elle peut revenir dans 5-6 ans, quoi. Enfin.
Est-ce qu'on terminerait pas, non pas avec nous, ou à part si t'as des questions encore d'Az, ou si vous avez envie de parler de trucs spécifiques par rapport à la BCDR, ou je pense qu'on a fait un bon tour, mais.
Ouais, moi, je peux en parler des heures, donc c'est vrai, pas, oui. Ça sert à rien.
On n'a pas parlé de l'aspect podcast.
Alors, tu sais quoi, j'ai une question autour de ça. Mm. Parce que, effectivement, je le disais tout à l'heure.
On n'a pas de vidéo.
Vous comptez,
je sais.
Alors, mais surtout qu'à une époque où vous en faisiez, et je dirais même que vous continuez avec trajectoire à recevoir des articles. Mais à une époque, vous receviez beaucoup plus de gens en interview, je parle vidéo, audio, etc. Est-ce que ça traduit d'ailleurs une difficulté globale à avoir des gens en interview aujourd'hui, et donc vous le faites moins? Est-ce qu'il y a une question aussi de moyens sur la vidéo? C'est une galère, on le sait, ça coûte cher de faire de la vidéo.
Ça coûte cher, la vidéo.
Évidemment, en plus, il y a les podcasts. Hein,
vous avez une chaîne Twitch ou pas?
Tout le monde à y aller.
Non, malheureusement. Mais
parlons-nous.
Bah, je vais parler là pour moi, pas au nom de la BCDR, mais moi j'adorerais qu'on refasse plein de vidéos, etc. Mais c'est-à-dire qu'à un moment il faut choisir un peu ses combats. Et quand on est bénévole, bah là déjà cette année il y avait 7 personnes à recruter. Et alors accompagner quelqu'un pour se lancer sur la vidéo sur son temps libre le soir et le week-end.
Oui, c'est vrai que
c'est compliqué quoi. Et nous c'est vrai que la base ça reste quand même l'écrit. Et avec le podcast, on a trouvé quelque chose aussi où c'est quand même plus simple.
C'est un entre-deux.
C'est un entre-deux quoi pour nous. Ça nous permet aussi de faire des choses différentes, notamment de faire de la critique de l'actualité musicale, parce que sur le site souvent on se détache de l'actualité et tous les 3 mois on fait un podcast où on débat parfois de Gazo, de Nino.
Et vous faites non seulement des briefs rap français mais aussi des briefs rap américain.
Oui. Ouais, c'est très riche. C'est vrai qu'il y en a de moins en moins des médias qui parlent de rap américain en France aujourd'hui avec le succès du rap français.
Ils vont parler toujours des mêmes artistes, un peu incontournables. Mais
on y a pensé à se relancer sur la vidéo. Mais enfin, pour l'instant, c'est plus une question de temps de chacun, parce que enfin.
C'est marrant, mais vraiment vidéo et bénévolat, ça ne marche pas. Mais
parce que c'est dur, c'est horriblement chronophage.
Il faut tourner. Des fois, si on veut bien faire les choses, faut faire des pilotes. Ensuite, faut le monter. C'est quand même moins spontané.
Mais tu vois, enfin, l'audio, c'est du taf aussi.
Moins, mec. Je t'assure. Alors, t'as raison, c'est du travail. Hein.
Mais en fait, non, c'est parce que en fait, quand surtout, tu fais de l'audio,
les caméras.
En fait, voilà. Alors, il y a l'accès au matos, mais on parle de hip-hop, donc c'est-à-dire des mecs qui réussissent à se débrouiller quand même. Mais
iPhone.
C'est marrant, mais tu peux accepter de faire de l'audio qui est pas ouf, tu vois, c'est-à-dire, bon, bah, ok, on n'a pas un son radio, mais on s'en sort, on se démerde, mais alors l'image.
Ah, c'est marrant.
Tu refuses d'avoir une mauvaise image, parce que tu te dis, ça fait un peu cheapos.
En plus, c'est complètement faux, parce qu'on sait très bien que quand t'as de l'image, l'essentiel, c'est le son. Le son peut être de qualité et l'image moyenne.
Bah oui, mais il n'empêche que moi, le nombre de fois, parce que moi, je viens du podcast aussi, tu vois, donc le nombre de fois où on s'est dit, où il y a une vraie demande. Genre, mais foutez 2 webcams et filmez votre putain de podcast pour que les gens qui sont sur Twitch, ils puissent vous voir. Et on dit, non, parce que 2 webcams statiques, ça va être flingué. Tu vas avoir une sale lumière, une vieille image. Et on se dit, en fait, ça va plutôt desservir le truc. Alors qu'il y a des gens...
Oui, ça peut être une option pour vous, ça, d'ailleurs, non?
Moi, j'ai déjà pensé.
J'y pense aussi. Mais c'est juste, je te laisse dire après. Mais moi, je pense qu'au niveau de la vidéo, vu qu'on est très exigeant... Enfin, on est exigeant, je ne vais pas faire peur aux gens qui voudraient nous rejoindre. On est exigeant sur l'aspect écrit, etc. Je pense que ça nuirait un peu à l'image de l'ABCDR d'arriver avec une vidéo toute pourrie, mal éclairée.
Vous
incohérent.
Vous êtes victime de votre propre...
Rigueur sans doute. Ouais.
Et en même temps.
Non, et peut-être que j'ai tort sur ça.
Zo, tu voulais réagir, pardon. Ouais.
Non. Enfin, effectivement, les émissions, en fait, à un moment, elles ont atteint un tel niveau de.
Oui, on avait un petit plateau télé, etc.
De professionnalisme, moi, je vais pas avoir peur de le dire. Que déjà, c'est un peu dur, tu vois. Alors là, il y a assez de temps qui a passé, il y a maintenant probablement assez d'eau qui a coulé sous les ponts, tu vois. Mais en fait.
T'aurais l'impression de régresser.
C'était inenvisageable. Et puis même.
Ça aussi, c'est hip-hop, les gars.
Ouais, mais
franchement, à l'époque de
studio. Déjà, on a eu l'impression de régresser en ayant ces vidéos qui disparaissent. Donc, je pense qu'on a eu l'intelligence de justement recapitaliser à mort sur le format écrit, refaire des formats très longs, créer des dossiers, etc., qui au fur et à mesure ont fait que ça a repris. Mais il y avait un peu ce truc, par rapport à la vidéo, il fallait attendre que l'eau coule sous les ponts. Bon, là, maintenant, je pense qu'effectivement, l'eau a s'écoulé sous les ponts. Le faire, par contre, Brice l'a très bien expliqué, il y a toute la contrainte organisationnelle par rapport au bénévolat, ou alors d'annuler le bénévolat dans le cadre de la vidéo.
Et encore une fois, et tu vois, et c'est ça qui est bizarre.
De l'argent, quoi.
Et de créer un abécédaire du son dans l'abécédaire du son, etc., ce qui a aussi ses limites. On l'a un peu vécu au moment de la vidéo aussi, même si après, faut pas que les gens s'imaginent qu'il y a des grosses embrouilles derrière, il y en a pas. Mais des fois, ça a posé des questions, des petites frictions, etc., et tout. Et surtout, en fait, je pense qu'il faut y aller progressivement. Moi, par exemple, les trajectoires, je pense qu'au bout d'un moment, si on continue à les faire en public, il faudra peut-être réfléchir à se dire, on claque 1500 balles, on fait venir deux caméramans ou trois caméramans.
Ça, c'est vrai.
Ils le filment, ils le montent, et on voit ce que ça donne, tu vois. Et au fur et à mesure, peut-être, reprendre le truc comme ça. Par contre, pour répondre à ce que tu as sous-entendu dans ta question, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avoir des artistes en interview ou sur du format écrit pur et dur, ça devient de plus en plus compliqué.
Parce que les artistes veulent pas être mis en difficulté aussi, ou qu'on leur pose des questions trop...
Bien sûr. Les artistes se méfient vachement, sont beaucoup plus, j'ai eu cette phrase l'autre jour dans une autre émission, sont contrôle fric. Les réseaux sociaux ont pas tant changé la musique que ça. La technologie, évidemment, oui, mais par contre, le rapport des artistes aux médias musicaux, complètement. Ouais. Tu vois. Ça mériterait une émission entière.
Non, mais le fait, tu vois, on évoquait un fait qui s'était passé où un journaliste s'était fait frapper par un artiste. Tu te dis, ça devrait pas arriver, ça.
Enfin, non, mais bon, ça,
l'artiste, tu peux encaisser. Même si, effectivement, bon, la pique était piquante, mais.
Et puis, ça arrivait déjà il y a 30 ans. Mais après, le truc, c'est que je suis sûr qu'avec la vidéo, on aurait beaucoup plus de facilité à avoir certaines personnes d'interview qui, aujourd'hui, c'est même pas qu'elles nous disent non, elles nous ghostent. Tu vois?
Ah ouais?
Parce que ça fait plus de chiffres de vues, une interview.
Oui, parce que eux, ils visent les formats qui sont partagés, TikTok, voilà, la viralité, ce genre de trucs.
Voilà.
C'est vrai que la viralité d'une interview écrite,
c'est compliqué.
Par contre, dans le temps,
c'est hyper intéressant. Ça vit hyper longtemps, une interview écrite.
Et l'avantage qu'on a aujourd'hui, et ce qui me fait quand même plaisir que je sens, même si bon, derrière, c'est un peu un truc de vitrine, c'est que, pour certains artistes, certains attachés de presse, avoir le tampon ABCDR avec une interview avec l'ABCDR, c'est un peu
valorisant.
Avoir un article dans Libé, ça fait pas vendre plein de disques, mais ça donne une bonne image, quoi.
C'est le saut de qualité Nintendo.
Voilà, c'est ça.
C'est vrai que l'un des intérêts de la vidéo, mais on n'est pas obligé d'aller d'ailleurs dans ce sens-là. Et en plus, vous l'avez vécu un moment.
Alors, il y a le saut de qualité, tiens.
Oui, il y a le saut de qualité.
Oui, c'est vrai.
Certifié conforme.
Vous l'avez vécu un moment avec Mehdi, d'ailleurs. C'est que parfois, les médias et globalement le contenu sur Internet a besoin d'être incarné.
En tout cas,
si on souhaite l'étendre, avoir une grande communauté, il faut qu'il y ait des visages, il faut que les gens se reconnaissent en ces visages, etc., qu'ils puissent. Et ça, c'est vrai que c'est important. On peut choisir de faire un contre-pied total, mais c'est vrai que c'est plus difficile.
Je trouve que le podcast nous permet d'avoir un petit compromis là-dessus, au moins à travers la voix qu'on entend tous les trois mois des gens qui écrivent, les gens s'attachent un petit peu plus.
Non, mais clairement, bien sûr, ça joue à fond, ça.
Et moi, j'avais pas mal ressenti, et ça nous avait fait plaisir. On a fait l'année dernière notre premier enregistrement en public de nos podcasts de fin d'année. D'ailleurs, on le refait le 10 décembre à FGO Barbara cette année.
Ouais, bah voilà.
Et on avait vu beaucoup de gens, au final, une petite centaine de personnes venir, ils connaissaient un peu chaque membre, notamment, je pense, à travers le podcast, qui est un format ou un peu plus personnel que de l'écrit avec le nom à la fin. Et
plus incarné, plus reconnaissable.
Je trouve, pour nous, dans un fonctionnement bénévole où on n'a pas non plus tout le temps du monde, faire du podcast, ça nous permet aussi d'un peu incarner. Et ça, en plus, souvent de manière collective, vu que c'est des podcasts, on est 4-5 à discuter entre nous. Il n'y a pas de, y a pas de personnalité qui monte plus que les autres.
Puis oui, vous le disiez tout à l'heure, c'est une super expérience commune qui fédère aussi, de participer avec le reste de l'équipe.
Oui, bien sûr. Après, l'ABCDR, ça a toujours été une somme de personnalités. Et aussi, c'est chacun un peu sa spécialité, pas son précaré, hein, mais sa spécialité. Et donc, en fait, tu te rends compte que même des gens qui sont moins visibles sont souvent identifiés par des mecs qui vont, des nanas qui vont suivre tel type d'artiste, ou tel type d'article, ou telle chose. Un mec chez nous qui est hyper discret, qui s'appelle David Carré, qui est excellent, et qui fait notamment plein d'articles autour du rap et du cinéma. Je suis sûr que les mecs qui sont fans des films de Shaolin, des films de De Palma et compagnie,
ils le connaissent.
Pour eux, il est incarné dans leur tête, tu vois. Alors, ils connaissent peut-être pas son visage, parce qu'il est très rare, ils le montrent très peu et tout, pareil sa voix, mais ils vont me dire quand tu parles avec eux, ouais, les articles de David Carré, pour moi, c'est, tu vois.
C'est ouais. Carré, c'est carré, justement.
Exactement.
Merci.
Facile.
Eh ben, bien nommé.
On peut peut-être s'arrêter sur ça, c'est trop beau.
Je suis un artiste.
On finit sur Werenoi, voilà.
ce qu'on peut faire, la tradition dans cette émission, c'est de terminer avec les recos. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on fait pas tout à fait des recos, mais Daz, encore une fois, on peut se mettre de côté, si ça te va.
Bah oui.
Et en hommage au bouquin qui sort, là, de l'ABCDR du son, 1990-1999, si tu le montres, parfait. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être vous choisissez peut-être, je sais pas, deux morceaux chacun, un truc comme ça des années 90 que vous trouvez marquants, que vous aimez particulièrement, qui sont
faciles pour toi,
sont présents dans le bouquin.
Pour toi.
on s'écoute un extrait rapide. Ça peut vous
faire. Ouais, vas-y, bien sûr, évidemment.
Ouais. Ouais, ouais. Allez, qu'est-ce que
alors, je vais commencer par un de 99, donc par la fin du livre.
Ouais.
Moi, j'ai toujours pensé que ça aurait dû être un classique du rap français et il n'est jamais cité. Alors que tu sens que pourtant, quand tu le dis, les gens font « Mais oui, bien sûr !» Mais pourtant, il n'est jamais cité. Le syndicat du Diabus System.
Wow. Ah, wow. Diabus System, ouais. C'est vrai que Diabus System... 99, Diabus System.
Ce son-là, ouais.
Ah ouais. Était encore actif en 99.
Ouais, c'est l'année de l'album du syndicat, ouais.
Ok, putain. Ouais.
Si je dis pas de conneries, hein. Si j'ai une connerie, c'est vous serez qu'on vous coupera au montage. Hein. Ah merde, c'était 96, il a déconné.
Allez, Diabus System, syndicat du rap.
C'est comme un syndicat du rap, pour assainir le métier. Pour un rap français sans pitié. Syndicat du rap, pour assainir le métier. Pour un rap français sans pitié. Un des kamikazes qui porte le flambeau sur du sombre, laisse son lambeau fait flamber la version. Mon aversion pour la médiocrité, pour les idiots c'est crépier. Mais les fans ils savent la vérité, je balance autre chose que des balivernes. Ma salive sert à former ceux que les salons perdent. Je cerne immédiatement tout le territoire. Pour toi c'est la mer à toi. Pourtant pour elle, car je réussis ce que son mari voit. L'histoire ne fait que commencer. Rien n'arrête une fois pensé, une fois qu'il est lancé. Il bloque, sabote, les plantes et les tracteurs. On a la cote en Formule 1, eux n'ont que les tracteurs. Des marqueurs ou des skills par cœur, que les textes appris par cœur. On a les freestyles, le juice et les flux réacteurs. La maturité pour que le son s'impose. La dextérité pour faire que la vérité explose. Boum, le rap passe à la radio et dans les médias.
Ça tue. Qu'est-ce qu'à les prods de Diabus System, c'était qui?
Mistadi.
Ah, mais Mistadi, c'est celui qui a un peu turn là, non? Et c'est pas politisé un peu chelou?
Non, c'est Topa, ça.
Ah ouais, putain, je confonds Topa. C'est spécialiste.
Ouais, mais qui est décédé, paix à son âme quand même.
Oui.
Faut quand même le dire.
Bien sûr.
Brice, check, il cherche le morceau dans le bouquin. Vous pouvez faire ça aussi, vous cherchez des livres dans le bouquin, après vous les écoutez.
Non, je cherche les noms exacts de morceaux dont j'ai parlé dans le bouquin. Je suis pas en train de chercher en panique un morceau comme ça.
Bon, tu vas enchaîner avec ton deuxième zoo, le temps que Brice trouve des morceaux en piochant dans le livre.
Je les ai, mais j'ai plus les noms.
Oh la honte.
Eh oh, j'ai 29 ans, hein, j'avais 4 ans à l'époque. Hein.
T'as mal fait tes devoirs.
Ah, j'hésite, le truc c'est que j'hésite. J'hésite entre... pour remettre les pendules à l'heure avec Daz, le couplet de Fab sur 11:30 contre les lois racistes.
Allez.
Où j'ai bien envie de mettre ça, mais j'ai envie de mettre un son avec des scratchs aussi, parce que moi j'ai fait un truc sur les scratchs dans ce bouquin.
Ah, le scratch, c'est vrai que il y en a plus beaucoup.
Non, alors que moi j'adore ça, donc j'hésite un peu. Non, vas-y, mets le 11:30 contre les lois racistes, mais faudrait que tu trouves le couplet.
Pas en
Fab.
Entière.
Non, parce que ouais, sinon t'en as pour 11 minutes 30.
Bah, 11 minutes 30.
Hein. Absolument. Alors, comment on va le trouver? Est-ce que c'est par ordre d'apparition? Comment ils sont.
Ça dépend de comment il est référencé dessus. Sur YouTube, je serais pas surpris qu'un mec.
Et chapitré,
exactement. Et mis les timings. Sinon, tu mets retour aux pyramides et tu t'embêtes pas. Hein.
Ah, voilà.
Ce sera aussi une prod de White Spirit et j'aime bien les prods de White Spirit.
J'adore moi aussi.
Voilà.
Sur l'album 3 fois plus efficace de Balle de Nègre, toutes les prods sont folles.
Bah là, c'était Retour aux pyramides, c'est quoi? Ma cité va craquer.
Ouais.
Le film était éclaté au sol.
Mais moi, je suis pas d'accord.
Oh non.
Moi, je suis pas d'accord.
Ah, je l'ai revu. C'est compliqué, hein.
Cinématographiquement, c'est particulier, mais en fait, je pense que c'est un très bon film, en vrai, dans le fond, je pense.
Ah ouais?
Ouais.
Faudrait qu'on en discute.
préparait le Big Bang.
Derrière tous des clics de ouf, des pits à casquette,
des big bands.
Qu'est-ce qui se passe, mec? Les types scandent qu'ils vendent shit, les cons sentent le truc descend de flics, les petits bandes. Devant les films de gang vie, monte à Tommy, monte, top ta vidéo de Montana, Tony. Pompe ton anatomie,
vas-y à pompe, je la
free, pour que tous restent en vie. Vos vies sont grillées comme la gueule dans un survêt loto, ou un tueur qui laisse sa photo, une lueur dans le regard, un front plein de sueur, une peau noire, un esprit clair pour le Nesby. La rue, mon casino, comme Pacino et Petty. Entre nous, trop de concurrence comme Coca et Pepsi. Comme si c'était l'épilepsie.
Ah
ça secoue sur du Mako, ça défile de fils épilés en brouille.
Hey, mais c'est Mako, ça.
Des bouteilles de whisky se cassent comme dans les saloons.
On dirait une scène dans Platoon, c'est la merde, frère. J'ai de la force pour les frères. Où est mon trône? Retour aux pyramides, nique les clones. Nique les clones.
Monumental morceau.
T'as eu un petit honneur, quoi? Tu viens de penser à un morceau?
Ouais. C'est à cause d'une actualité malheureuse et, et j'avais parlé de Scratch. Et y a un morceau de Morad où il est incroyable et où le DJ scratch de façon incroyable. Le DJ étant que TB.
On va se mettre un extrait quand même. Brice, est-ce que t'as trouvé?
J'ai mes deux extraits.
T'as deux extraits. Allez, on se fait ça et après on termine avec le
Morad. Morad, repose en paix, Morad, la scred.
Moi, j'ai beaucoup moins écrit que les autres sur, le, sur ce livre-là.
Bizarrement.
Étant donné que j'avais 6 ans à la fin de cette décennie. Mais avec ce, en participant à ce bouquin, quand même, j'ai découvert quelques morceaux qui m'ont. Que j'aurais jamais découvert en dehors de ça. Le premier, en fait, c'est sur le tout premier maxi de la Mafia Quin Free. Mmh. Et le morceau s'appelle Rêve perdu. Et c'est avec Yeezy l'escroc, Rimka et Manu K. Et c'est un morceau qui, moi, représente beaucoup de choses que j'aime beaucoup dans le rap des années 90 parce que en fait, j'aime beaucoup la mélancolie, faut pas en abuser. Mais là,
c'est quoi l'instru, c'est piano violon ou pas?
C'est évidemment piano violon. si je me souviens bien. Mais Rêve perdu, c'est et il y a un truc où tu sens la Mafia Quin Free au balbutiement. C'est vraiment leur premier maxi en 99. Il y a un truc hyper sincère, sans calcul, et je trouve que c'est
98 même.
98, pardon.
Ouais, alors le groupe il est installé quand même, hein, parce que mais nous on s'était déjà fait dépouiller par eux bien avant.
Mais je trouve qu'il y a un truc très touchant en fait dans ce morceau de qui est vraiment Mafia Quin Free avant le gros succès pour moi.
Allez, Rêve perdu, Mafia Quin Free.
J'ai passé mon enfance à me battre contre mes anges, entraîné par mes démons dans un combat plutôt étrange. Ma couleur dérange, on ne pourra rien y changer. Mi démon, mi ange, prêt à dompter tous les dangers. J'ai comme berceau la rue, regarde ce que je suis devenu. Un gagnant que dalle, aujourd'hui j'ai tout perdu. Seul le cash a le don de rendre heureux. Un homme qui a autant de rage que moi dans les yeux. Que les lâches mordent la poussière à grands coups de pied dans le cul. Un sage à l'esprit ouvert, putain j'ai été déçu. Gaspiller ma jeunesse pour des rêves impossibles. C'est dur de tomber de haut quand tu te crois invincible. On commence par sécher, on finit par arrêter. L'école j'ai mis de côté, j'avais d'autres priorités. Parlons de réalité, ne pousse que ce qu'on a semé. Évite les mauvaises herbes qui tentent de s'incruster. J'ai fait mon choix, j'ai donné sans compter. Quoi que je sois devenu aujourd'hui, je pense l'avoir mérité. On vit pour ce qu'on aime, on déteste que l'on vit. À 22 ans, je pense avoir vécu plus de 3 vies. Le béton assassine, chaque jour je me mets.
22 ans les gars. Et déjà la désillusion. D'un gars déçu par la vie à 22 piges, t'as rien fait aujourd'hui. Putain,
et mon deuxième morceau, c'était un peu aussi pour. Il y a une spécialité à l'ABCDR, c'est un peu de parler des personnages de l'ombre ou des gens parfois oubliés et de leur donner de la visibilité. Et à la fin du livre aussi, on parle de la première compilation du label Dean Records du Havre. Et c'était, ça s'appelait La Boussole, on fait comme on a dit.
La Boussole.
Et sur cette compilation, à un moment, il y a un rappeur, alors malheureusement, peut-être qu'il a fait beaucoup de choses après, mais je crois pas. Il s'appelle Enars. Il a fait un morceau qui s'appelle Regret. Oui, c'est ça, Regret de Enars. Et c'est un morceau, quand je l'ai écouté, je me souviens du moment, et c'était pour le livre, où j'ai écouté pour la première fois. J'ai été scotché, parce que c'est un morceau aussi très mélancolique, où en fait, on sent que il parle de problèmes familiaux, de problèmes personnels, et il recrache tout, mais avec une espèce d'impudeur hyper forte et qui montre aussi, je trouve, le rap de cette époque où c'était aussi moins médiatisé, moins, il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc parfois on pouvait parler de choses très personnelles quand on en avait le courage comme Énars, et je trouvais ça cool de passer un peu ce morceau aussi.
Et bah c'est parti, Énars Regret.
Yo, Énars, 9-9, Soul Food, je représente pour mes proches, c'est la merde, c'est la merde, ouais, c'est... Ne pas savoir sur qui compter en cas de pépin, ça fait peu flic. Ceux qui m'apprécient, les vrais, peuvent être comptés sur les 10 doigts de la main dans ma tessie. Je sais que beaucoup ne m'aiment pas, mais il faut qu'ils sachent que leurs insultes ne m'atteignent pas. Mon âme saigne parce que même mes proches ont dit des trucs moches à mon sujet, c'est atroce. En plus, j'ai accumulé la haine de gens qui m'ont mal jugé. Souvent, je reste figé chez moi, bouche bée, car n'ont toujours pas pigé. Ils voulaient me jeter l'œil jusqu'à m'écœurer de la vie. Mais que reste-t-il de pas pourri? Je peux même pas voir mon avenir, il me semble que peu à peu, je perds la vue. La réussite nous surroge dans les séries, y'a que là-bas que les gens s'aiment. Moi, tout ce que j'aime sur cette terre finisse par disparaître tôt ou tard. Et t'as tort de croire que ta porte te protège de cette torture, ou que le flou ce que t'apporte ton deal t'accorde un deal pour la vie éternelle. J'ai perdu mon paternel à 8 piges, et mon frère c'est 8 piges qu'il a pris pour son buse. Quoi, je pense à toi sans cesse.
Piano-violon.
Alors, autant la prod a ultra vieilli, le mix est pas fou et tout, autant le texte est touchant, effectivement. Hey. Ouais.
Et j'ai plombé l'ambiance.
Ouais. Non, piano violon, c'est le rap français. Hein.
T'es vachement triste en ce moment, en fait.
J'aime bien la mélancolie, c'est vrai. Et je trouve que dans les années 90, on le faisait très bien.
On faisait que ça, c'est bien le problème.
C'était quoi ton morceau, Zo, de
Mourad.
De Mourad que tu voulais, c'était lequel?
Le beat qui tue.
Et ce que je vous propose, c'est... Bon, si, allez, j'allais dire, est-ce qu'on le met sur le générique de fin? Mais non, on s'écoute un extrait là, puis après on dit au revoir.
Allez,
on fait comme ça.
Le générique, c'était classe, trop.
Ouais,
ouais,
c'est vrai. Qu'on fait une fin comme ça.
Non, c'est comme
alors,
tu veux.
Alors, on remercie juste tout le monde avant. Déjà, on vous remercie tous les deux. Brizo, merci d'être venu.
Merci
beaucoup à vous.
Merci, c'était super cool.
Merci Daz, merci Iris, Flav, Sam pour la technique, François pour le montage, évidemment.
Merci beaucoup.
Achetez, ou au moins allez feuilleter, mais si vous le feuilletez, vous aurez envie de l'acheter.
Vous pouvez même le voler.
Il a dit, hip-hop.
Voler le, qu'est-ce qu'il disait ça? Voler mon CD. C'était pas le CMP ou un truc comme ça. Voler mon CD.
Et puis évidemment, un merci à Thomas aussi qui permet à cette émission de vivre, d'avoir des invités passionnants, de
merci
15 jours de se retrouver. On se retrouve justement dans 15 jours. De quoi on parlera, je ne sais pas encore. Probablement pas de rap, on va un peu varier. On aime parler de plein de choses différentes.
Dommage.
J'ai un petit sujet de quoi. Oh, c'est pas à chaque épisode quand même.
Pourquoi pas.
On va voir.
Ah là, il était habité, hein, en tout cas.
C'est vrai. Ah bah là,
là j'étais à la maison. Non, mais on va forquer cette émission. On fera un dans le tempo. Ça s'appellera dans la MPC. On écoutera que des samples. Voilà. Pendant 3 heures.
Et puis, on se quitte avec le beat qui tue, Scrat Connection Mourad. C'est parti.
Qui repose en paix.
Je représente pour ma poire, j'arrive sec, frénétique en scred, rien que du désopilant pour ta tête sous ma houlette, la poudre des stampettes dans les poches, le vent et la tempête, et pour ambition faire recette prête, attention aux détails les plus insignifiants, les jeunes ont pour les hors la loi une telle fascination, je déplore la soumission, la prostitution des esprits, j'essaye de faire valoir mon âme où tout a un putain de prix, je prie pour mes frères, ressens leur douleur, rectifie mes erreurs, observe la décadence avec stupeur, en mission pour le Seigneur, explose tes boomers, estompe ma rancœur, et me fait plaisir à la bonne heure. Les gens se meurent prétextant vivre, canalisant la violence par des substances douteuses dont ils s'enivrent, ivres de musique, rien de dramatique à l'origine du trafic. Mourad QTB sur le beat. Le beat qui tue, c'est...